Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Bonjour chers amis, bienvenue dans Ligne Droite avec toute l'équipe de la matinale. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Et bien justement, dans Debout les Français, avec Michel Hamas et Thierry Mariani, nous nous poserons la question, est-ce que l'État protège véritablement les droits de ses enfants? Nous enchaînerons avec Jean-Frédéric Poisson, qui dans le grand entretien nous parlera justement du camp du bien, c'est-à-dire de la manière dont l'État français et l'Union européenne sont tranquillement en train d'installer une dictature chez nous. Et nous débattrons avec Benoît Dumoulin de la laïcité. Est-ce un rempart ou est-ce une idéologie? L'analyse de Jean Messia permettra de compléter cette matinale avec évidemment tous les chroniqueurs habituels. Et sinon, nous fêtons le 8 avril 2003, au moment où le régime de Saddam Hussein tombe après 24 ans de dictature selon les Américains, qui évidemment envoient quelques bombes, quelques milliers de GI et quelques centaines de milliers de pizzas pour établir la démocratie en Irak. On sait à quel point ça a été un véritable succès. Merci de nous écouter et tout de suite un mot d'actualité avec Maëlys Clauzel.
Bonjour Richard et bonjour à tous nos auditeurs. Alors c'est une victoire pour des patriotes courageux. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé hier 5 militants identitaires poursuivis pour une banderole en hommage aux victimes du Bataclan. La justice a tranché, a enfin assumé. Dire 10 ans après l'ennemi est toujours là n'est pas un appel à la haine puisque c'est encore hélas le cas. C'est en revanche une désillusion pour SOS Racisme et pour le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez qui avait soutenu les poursuites et s'était conjointement positionné partie civile. On échappe à un nouveau verdict juridique qui promettait d'être scandaleux, c'est encourageant.
Le Quai d'Orsay, lui, s'égosille après des fuites d'informations de la garde à vue de Rima Hassan.
Oui, alors que la garde à vue de l'eurodéputé LFI Rima Hassan s'est achevée, l'élu d'extrême gauche dénonce des fuites et porte plainte pour violation du secret professionnel. Gérald Darmanin a aussitôt saisi l'inspection générale de la justice et monte au front pour défendre son porte-parole, accusé d'avoir transmis les informations à des journalistes. Mais dans l'affaire Quentin, où des éléments cruciaux d'enquête ont fuité à répétition dans les médias d'ultra-gauche comme Street Press, Blast ou Mediapart, en plein déroulé des procédures, aucune réaction de la part du pouvoir, comme c'est étonnant. Mais une fois de plus, on n'espère plus rien de cette caste.
Le RN, de son côté, agit pour endiguer l'infiltration de l'islamisme dans nos mairies.
Absolument, les députés Anne Sicard et Julien Odoul ont présenté hier à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à interdire le port du voile islamique avec des signes religieux ostensibles lors de conseils municipaux. Le texte entend étendre les exigences de neutralité religieuse aux élus locaux, en particulier dans l'exercice de leurs fonctions au sein des mairies. Les auteurs de la proposition invoquent la défense du principe de laïcité, dénoncent le caractère provocateur du voile islamique qui n'a rien à faire dans un conseil municipal et qui en plus est totalement politique, notamment dans les villes de gauche. Anne Sicard nous explique plus amplement les raisons de cette proposition.
Tout d'abord, arrêtons-nous à La Courneuve. Dans cette commune, la nouvelle élue qui portait le voile a été désignée adjointe au maire par le nouvel édile Ali Diouara. Elle sera donc à la fois une élue, mais également une représentante de l'État dès qu'elle assumera des fonctions d'officier d'État civil ou de police judiciaire. Dès lors, la question se pose de savoir si elle célébrera les mariages civils ou participera à des commémorations officielles en portant le voile islamique. À Meaux, la question qui se pose, c'est plutôt l'attitude du maire LR Jean-François Copé, qui, malgré les demandes de ma collègue Béatrice Rouleau, a manqué de courage et refusé de modifier le règlement intérieur pour interdire le port du voile au conseil municipal. Enfin, à Chalon-sur-Saône, le maire a été plus courageux que celui de Meaux, mais s'expose au risque de voir son nouveau règlement intérieur être annulé par le juge administratif, même si pour le moment, il semble obtenir gain de cause en référé.
C'était Anne Sicard que nous recevons demain sur Ligne Droite à ce sujet, donc soyez au rendez-vous.
Israël continue de frapper inlassablement le Liban.
Bah oui, Israël ne veut pas du cessez-le-feu. Au moins 254 personnes ont été tuées, 1165 ont été blessées au Liban après des frappes israéliennes d'ampleur menées hier, selon le ministère de la Santé libanais. Tsahal affirme avoir visé une centaine de positions du Hezbollah à travers le pays, mais a plus provoqué de morts civiles qu'autre chose. Des frappes ont notamment touché Beyrouth, la plaine de la Baka et le sud du Liban. Sur place, les scènes de chaos se multiplient et l'indignation internationale évidente s'exprime vivement. Téhéran, de son côté, menace de riposter après ce qu'il qualifie de massacre brutal, faisant craindre un embrasement régional, d'autant que ces frappes interviennent malgré l'annonce récente d'un cessez-le-feu avec l'Iran qui, selon Israël, ne concerne pas le Liban. Donc plus les jours passent, moins il s'agit de se défendre et plus il est évident qu'il s'agit de conquêtes territoriales, comme l'assument d'ailleurs les membres du gouvernement israélien.
Pour le sport, on continue à parler cyclisme.
Oui, le Français Axel Laurens a remporté au sprint la troisième étape du Tour du Pays Basque ce mercredi. Son compatriote Paul Sexas conserve de son côté la tête du classement général à l'issue de cette étape.
Très bien. Est-ce qu'il va faire beau ?
Eh bien écoutez, aujourd'hui le soleil continue de briller malgré un voile nuageux au nord. Le vent du nord-ouest se renforce près des côtes normandes et bretonnes. Côté température, nous attendons pour les maximales de 15 à 29 degrés du nord au sud, avec notamment 15 à Brest, 22 à Strasbourg et 26 à Paris. Il va faire beau cet après-midi. Et nous célébrons en ce 9 avril Saint-Gauthier de Picardie, le premier abbé de la fondation Saint-Martin de Pontoise, Saint-Vadim, Sainte-Vaudru, Sainte-Maldeberge et Sainte-Adeltrude.
Et voilà, bien, bonne fête à toutes les Adeltrudes. Merci beaucoup Maëlys.
Ligne droite.
Bonjour Magda.
Bonjour Richard. Chers auditeurs, ça y est, d'ici à 2035, les écoles, collèges et lycées français devraient perdre plus d'1,6 million d'élèves. C'est la projection du ministère de l'Éducation nationale. Cette baisse de 14,2% par rapport à 2025 est déjà enclenchée. Ces projections suivent une baisse déjà entamée qui va devenir massive, puisqu'on va perdre près de 1,7 million d'élèves, dont plus de 900 000 élèves dans le seul premier degré, a déclaré le ministre de l'Éducation. Mais ce n'est pas une évolution, c'est bien un basculement, puisque dans le détail, cette baisse concerne d'abord le primaire, mais elle va progressivement se répercuter sur le secondaire, avec un effet en cascade sur l'ensemble du système éducatif. Et la cause, c'est la démographie. Moins de naissances depuis plus de 10 ans, avec une chute encore plus marquée récemment. Moins d'enfants aujourd'hui, donc moins d'élèves demain. Alors, sur le papier, le ministère essaie d'en faire une bonne nouvelle. On met en avant des classes moins chargées, avec un objectif d'environ 21 élèves par classe dans le primaire. Présenté comme ça, cela ressemble à un progrès, mais cette moyenne nationale masque de fortes disparités territoriales, notamment entre zones rurales, villes moyennes et grandes métropoles, même si, jusqu'à Paris, des écoles sont touchées. Sur le terrain, cette baisse sert surtout de justification à des fermetures. Certaines estimations évoquent près de 5000 fermetures de classes dans le premier degré, avec près de 4000 suppressions de postes prévues dans le budget 2026. Ce qui alimente directement la colère des enseignants et des élus locaux. Parce que si le gouvernement invoque une chute démographique historique pour justifier ses coupes, les syndicats dénoncent une logique comptable qui se fait au détriment de la qualité d'enseignement et des conditions de travail des personnels. Autrement dit, la baisse démographique est utilisée comme levier budgétaire plutôt que comme une occasion de réinvestir dans la qualité de l'enseignement. Alors depuis plusieurs jours maintenant, des mobilisations ont lieu un peu partout en France. Par exemple en Alsace, 5 vaches ont symboliquement été inscrites à l'école pour éviter une fermeture de classe. Dans l'Oise, certains vont jusqu'à mettre leur école sur le bon coin pour attirer des élèves. Ailleurs, des enseignants alertent sur des situations qui vont, selon eux, mettre à mal les équipes. Et dans la Manche, des pétitions sont lancées. À Alençon, une école est menacée malgré un dispositif pourtant présenté comme exemplaire. Bref, dans certaines communes, même les maires expliquent que la fermeture d'une classe fragilise directement l'attractivité du territoire, avec des conséquences sur l'installation des familles et la vie locale. En bref, partout, habitants et élus se mobilisent et ce ne sont absolument pas des cas isolés, c'est un phénomène d'ampleur nationale. Et ce que ces situations montrent, c'est que la fameuse adaptation se traduit concrètement par un recul, moins de classes, moins de présence, moins de services. Sauf qu'au lieu de traiter ce sujet de la démographie comme une priorité, on se contente d'en gérer les conséquences. On ferme, on regroupe, on ajuste, autrement dit, on transforme un problème de fond en variable d'ajustement parce qu'une baisse du nombre d'élèves pourrait être une opportunité réelle, améliorer le niveau, renforcer l'encadrement, maintenir un maillage scolaire solide, mais ce n'est pas la logique choisie, la logique c'est de s'adapter à la baisse. Ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles n'est pas seulement une réorganisation, c'est seulement le reflet direct d'un pays qui fait moins d'enfants. Et face à cela, la réponse n'est pas de reconstruire, mais de réduire. Alors on ferme, on ajuste, on rationalise et cette logique touche désormais aussi bien l'école publique que certaines structures privées sous contrat, elles aussi affectées par la baisse globale de ses effectifs. Autrement dit, on ne corrige pas le problème, on s'organise autour de lui.
Merci beaucoup, Magda. Et tout de suite, nous allons entendre donc Michel Hamas et Thierry Mariani, interrogés par Liselotte Dutreuil, nous parler justement de la situation de l'enfance en danger en France.
Ligne droite. Debout les Français.
Thierry Mariani, nous sommes avec Michel Hamas, l'avocat qui lance l'alerte depuis maintenant presque un an sur ces réseaux de prostitution de mineurs qui se nourrissent littéralement de l'aide sociale à l'enfance et par ailleurs donc de tous ces problèmes de violence qu'on peut retrouver au sein de ces structures. Et il pointe du doigt la responsabilité notamment des départements. Vous avez été conseiller général, donc l'ancêtre des conseillers départementaux dans le Vaucluse. Vous avez vu la façon dont ça peut fonctionner de l'intérieur et donc cette lenteur administrative à laquelle on peut assister, notamment sur ce genre de sujet grave. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Est-ce que, voilà, comme Michel Hamas le suggère, ce ne serait pas un sujet qu'il faut que l'État doit reprendre en main et arrêter de déléguer?
Écoutez, j'ai malheureusement pas entendu votre discussion avec Michel Hamas. Je le prie de m'en excuser puisque je n'étais pas dans le studio. En tant qu'ancien conseiller général du Vaucluse, à l'époque, j'ai pas souvenir d'affaires honnêtement comme celle-ci. Je dis pas que ça n'existait pas.
C'est vrai qu'on n'en parlait pas.
On n'en parlait pas. Ouais. Deuxièmement, ce que j'ai pu constater par contre sur toute une série d'alertes sociales, puisque le social est désormais l'une des compétences principales des départements, c'est que les départements sont surchargés, sont complètement débordés, et que malheureusement, je pense qu'effectivement, même s'il y a des alertes, ce n'est pas forcément leur priorité en ce moment. Voilà, après, je suis arrivé, Monsieur Hamas, à la fin de votre intervention. J'ai noté que quand la police était enfin arrivée, ou plutôt quand les journalistes se sont manifestés, la police avait enfin décidé de s'occuper de ce problème. C'est évident que la prostitution enfantine devient de plus en plus importante et c'est évident que l'État a un rôle primordial à jouer pour la combattre.
Puisque Michel Hamas, quand vous nous parliez de ces journalistes qui ont commencé aussi à s'intéresser sur ce sujet, notamment en faisant des caméras cachées, on se rend compte que finalement l'État avait quand même déjà un moyen d'action via la police, et en réalité c'est quelque chose qui là encore était assez délaissé, avec des foyers qui donnent l'alerte, qui disent voilà, on sait que tel enfant a fugué, effectivement se retrouve dans telle location de Airbnb ou autre pour se prostituer et qui est la victime de ces réseaux. Et la police explique souvent qu'en fait, ils ne peuvent rien faire ou bien qu'ils essaieront d'intervenir et ça n'aboutit à rien. Là, l'État aurait pu expliquer voilà, à ses commissaires, ben maintenant, c'est l'une de vos priorités, agir lorsqu'un foyer vous appelle et qu'on sait qu'un enfant se prostitue dans tel appartement.
C'est pas exactement ça. Il y a une chaîne de responsabilité. Et après, il y a un fait social qui est la pédophilie. Chaîne de responsabilité. Les départements, les structures ne signalent pas quand il y a la fugue. Quand ils estiment qu'il est en fugue, on le sait plusieurs semaines après. C'est-à-dire, face à l'enfant qui n'est pas là, la réaction d'appeler le magistrat, ce n'est pas immédiat. Je vous donne une image qui est simple. Votre enfant est scolarisé dans un internat où il vient un week-end chez moi. Si ce soir, il n'est pas là demain matin, vous le saurez dans la minute. Il est là, le problème. C'est d'abord des négligences gigantesques. Voilà, il faut dire les mots. Négligence gigantesque. Ce n'est pas un problème de budget. C'est un problème de défaut d'engagement. Deuxièmement, il y a le problème de la pédophilie. Et alors, maintenant, nous, on l'affirme et on ne met plus de gants à personne. En France, on est friendly de la pédophilie. Ce n'est pas un truc qui nous emballe, dans lequel on lutte vraiment. Pourquoi ? Nous, on l'affirme. Pourquoi ? Parce que personne ne saurait ignorer que 20 000 enfants se prostituent désormais à partir des foyers de l'enfance. Personne ne saurait ignorer. 20 000 enfants, c'est donc 400 000, 500 000 consommateurs. Parce que là, on part de l'enfant, on part du steak haché. Mais maintenant, il faut voir le ventre. Personne ne s'occupe du ventre. Et alors, il n'y a pas de politique globale en France de lutte contre les réseaux de pédophilie. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les ministres. Maintenant, on travaille avec quatre ministères en même temps coordonnés. Justice, intérieur, femmes, santé. Et eux sont comme nous, ils sont désarmés. On attaque un peu à droite, on essaie de colmater à gauche, on bricole. Il faut lutter contre la pédophilie. D'abord, il faut fermer les sites dont on a demandé la fermeture, et ce n'est pas le cas, c'est inacceptable en fait. Ces tergiversations, tout ça, c'est bien. Quelques semaines, mais pas 8 mois.
Là, ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, Michel Hamas, puisque vous avez tiré la sonnette d'alarme, mais vous les avez même vus en rendez-vous privé pour les avertir.
Encore une fois, je ne les ai pas vus seuls.
Ouais. On a été reçu à l'Assemblée nationale par des centaines de députés, et quand on monte, on vient à plusieurs avocats, et on vient avec des magistrats. Je ne suis pas l'excité qui vient dans un truc. On travaille avec les magistrats, moi je ne suis que la voix, puisque les médias m'ont vu en premier, donc on m'a mis devant. Mais on porte le combat des autres. Donc, un, fermez ce site. Et deux, parlons de la pédophilie. Et là, je vous révèle, je vous parle juste d'une procédure qui est symptomatique de tout. On a une petite fille qui habite Montpellier qui est placée. Elle est enlevée par des réseaux de pédophilie. On va la roder. Ils vont la roder à Auxerre, où ils la prostituent. Donc, enlèvement, séquestration, viol et réseau de pédophilie. Là, la mère, pendant des semaines, va à la police, ma fille est là, puisqu'on les joue, c'est sur Snapchat qu'on les localise, hein. Donc on met près, on sait où est l'enfant. Pendant des semaines, on va voir le commissariat en disant, allez chercher mon enfant. On finit, alors elle a enregistré la conversation, le policier dit, arrêtez de nous emmerder, allez chercher votre enfant. Donc, elle va récupérer l'enfant, elle va sur place, elle appelle la police qui vient. On arrête le MAC, le procès net, et quatre personnes en train de consommer cet enfant. Ah, écoutez-moi, parce que c'est surréaliste. Tout le monde est entendu, tout le monde est libéré. Attendez la phrase parce que c'est quand même pas neutre. Tout le monde est libéré. La maman reprend l'enfant, la ramène à Montpellier, on la remet dans le foyer de placement. Le même proxénète vient récupérer cet enfant, là l'amène à Versailles. Ou à Versailles, elle va être livrée à la pédophilie à nouveau et séquestrée. Enlèvement, séquestration, viol, prostitution. Là, à Versailles, pareil, on va voir la police tous les jours et on a les mêmes entretiens avec les policiers. Mais allez chercher votre enfant, arrêtez. C'est là que le journaliste de France Inter, courageux Antoine Gignoux, se met en bas de l'immeuble en disant voilà, c'est moi le journaliste, venez. Là, les policiers arrivent, arrêtent, proxénète, consommateur. Et là, pas le même régime. Garde à vue, juge d'instruction, prison pour tout le monde, ouverture d'une information pour enlèvement, séquestration, viol, proxénétisme. C'est-à-dire que deux endroits différents pour les mêmes faits, les mêmes acteurs, à un mois de différence. À Auxerre, ils vont considérer que c'est le proxénète est poursuivi pour proxénétisme, c'est-à-dire assistance à la prostitution, comme si c'était une adulte. Et à Versailles, on la considère comme un enfant, il y a une instruction. Alors que ma cliente, elle a 13 ans. À quel moment le parquet de Versailles peut estimer que contribuer à la prostitution d'un enfant de 13 ans, c'est juste de la prostitution ? À quel moment ? Alors, moi, j'entends, on a un combat médiatique, nous affrontons dans les médias à l'heure actuelle. Mais on va s'affronter surtout au tribunal. À quel moment ? Qu'est-ce qui se passe ? On est passé, et alors, quand ça dysfonctionne, ça dysfonctionne. Nous avons été prévenus un mercredi pour l'audience à Auxerre le mardi. La mère habite Montpellier, j'habite Marseille. Après, c'est la justice, et c'est vrai que la justice est faite au mieux. Donc moi, je crache jamais sur les magistrats, parce qu'ils ont... Les magistrats en France ont un problème essentiel. Tiens, je fais une digression, mais dont il faut parler. En 1804, quand Napoléon crée le code civil et met en toutes les bases de notre justice. Il y a 6483 juges. Nous sommes en 2025. Nous sommes 40 millions de plus. Il n'y a que 7200 juges. C'est-à-dire qu'entre 1804 et aujourd'hui, il y a juste 900 juges de plus. Pour 40 millions de Français de plus. Alors, le problème, il est tout simple. on n'a pas de magistrat, et certains ont une approximation, une analyse approximative des situations. Et par rapport à la pédophilie, je le dis de manière détendue, hein, il n'y a pas un projet de lutte contre les réseaux. Là, si par exemple on scanne ce site dont je parle tous les jours, si on rentre dedans, j'imagine qu'il y a des gens qui sont compétents pour aller voir quelles sont les adresses IP des gens qui le consultent. Les pédophiles, ils sont tous là. Il suffit d'arrêter, quand on dit l'enfant est là puisqu'il est sur Snapchat, il suffit d'arrêter tout le monde. Et surtout, comment ils s'en sortent ? Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est important. Tous ceux qui ont consommé les enfants ne sont pas condamnés, en fait. Ils n'ont qu'à dire, je n'avais pas connaissance du fait que c'était un enfant.
Là, le policier arrête de travailler au lieu de saisir sa téléphonie.
Ça aurait un sens de saisir la téléphonie de celui qui a un rapport sexuel avec un enfant de 13 ans, tarifé ou pas. Ils ne saisissent pas sa téléphonie. Donc, toutes les photos, toutes les conversations, on ne les a pas. Donc, les gens, là, par exemple, je donne un exemple qui est à Albi en septembre. À Albi, ils arrêtent un proxénète avec une gamine de 13 ans. Il y a 19 personnes qui sont arrêtées pour l'avoir consommé. 19 dans le corps d'un enfant de 13 ans. 19. Ils sont tous passés en CRPC, c'est les audiences de plaider coupable pour les pauvres, parce que quand vous brûlez un feu rouge. Donc, ils sont passés là. Donc, il n'y a pas de peine de prison, c'est RPC. Et ils ont tous pris 500 euros d'amende. Et certains avocats avaient raison. Un avocat, c'est faire ce métier. Hein. Ils disaient, ah, mais ils ne gagnent pas assez d'argent, mais témoin. Monsieur s'est accouplé avec un enfant de 13 ans, moyennant rémunération. Albi, qui a donné tant de leçons à la France il y a quelques semaines avec le procès de ce monsieur Jubilard. Bon, pour donner des leçons... C'est bien, mais si on applique la loi, c'est mieux quand même, en vrai, dans la réalité de la vraie vie. Mm.
Parce que, vous, c'est quelques minutes ce matin.
Et ça va être quelques minutes après, pour nous, un journal, un truc. Mais nous, ils s'asseyent devant nous, ces gens. Et quand on a... Mettez-vous juste une seconde à la place des parents. On leur prend l'enfant parce qu'ils se disputent, par exemple, ou parce que l'enfant est autiste, ou parce qu'elles ont été rouées de coups par un mari qui les malmenait. L'enfant est placé, et un jour, elles sont obligées de s'asseoir en face de moi, et je leur dis, ben voilà, votre fille est dans un réseau de pédophilie, elle est accro à la cocaïne, et on ne sait pas où elle est.
C'est-à-dire, c'est ça qu'on doit faire. Et plus...
Un truc incroyable. Les MST. À 12 ans. À 13 ans. À 11 ans. Est-ce que nous qui sommes ce pays merveilleux qu'est la France, on peut continuer à accepter que nos enfants à 11 ans chopent une MST dans un des foyers que nous avons à Villeurbanne, où on défend une petite, l'une des autres petites, est séropositive? Est-ce que, si ça ne nous préoccupe pas, faisons autre chose, on dit, allez, on s'en tamponne et open bar les enfants, comme ça on libère ceux qui ont détention. Mais on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et nous, c'est ce que nous disons, on le dit, on ne sait plus comment mettre les formes, on a essayé le lyrisme, on a essayé les bouquins, on a écrit les bouquins, on est allé partout.
Et depuis juin, il ne se passe rien.
Et la réaction des parquets, elle est d'engager ma responsabilité à moi parce que je lance l'alerte. En disant, mais celui-là, comment c'est possible qu'il passe par les médias pour assurer sa défense? Moi, en vrai, à un moment, quand nous, on n'a plus d'armes, parce que juridiquement, dans la mesure où dans cette matière, on revient au dossier, c'est le juge pour enfants dans lequel les parents n'ont aucun droit. Le juge pour enfants, les parents ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Dans la mesure où je peux pas faire un référé, je peux pas faire un référé premier président, je peux pas saisir la cour d'appel, je peux pas saisir le parquet, je peux rien faire. Je suis juge pour enfants, si je lui écris, il est pas obligé de me répondre. Si on continue dans une matière où on n'a pas l'égalité d'armes, lorsque nous sommes arrivés, moi je suis un vieil avocat, j'ai 61 ans, ça fait 32 ans que je suis avocat. Quand on est arrivé en garde à vue, on n'allait pas les clients. Quand on venait, ils étaient gonflés de coups, ils avaient pris des coups d'annuaire, et il y en avait qui avaient des plaies. Bon, du moment qu'on a donné les mêmes armes à tout le monde, le match était égal, des erreurs judiciaires, il n'y en a pas beaucoup en vrai. Hein.
Merci beaucoup encore une fois pour votre travail dont l'importance est plus que évidente, Michel Hamas. Et donc je vous dis à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Bonjour chers amis, il est 7h24, plutôt rebonjour chers amis, il est 7h24, merci d'être avec nous. À 8h10, Arthur de Vatrigan viendra rejoindre Jean-Frédéric Poisson qui est avec nous dans le studio et avec qui nous commençons ce grand entretien.
Ligne droite. Le grand entretien.
Bonjour Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous venez de faire paraître un livre, La dictature du bien, aux éditions du Verbe Haut, qui est un livre passionnant parce que c'est une espèce de cartographie des instruments de contrôle social et de ses penseurs, aussi bien ses promoteurs comme Bernet que ses adversaires comme Ellul. Est-ce que c'est une bonne définition de votre livre ?
Oui, c'est parti d'une question. Et je pense que cette question est partagée par beaucoup de nos auditeurs. Enfin, qu'est-ce qui explique que nos dirigeants se prétendent les plus ardents défenseurs de la liberté, des libertés, d'un côté, et d'un autre côté, que nous n'avons jamais connu autant de restrictions de liberté qu'aujourd'hui ? Comment s'explique cette collision ? Alors, est-ce que nos dirigeants sont aveugles ? Est-ce qu'ils sont bêtes ?
Non.
Est-ce qu'ils mentent ? Où est-ce qu'il déroulerait un projet politique ? Alors qu'il soit aveugle, bête et menteur, on le sait déjà, ça n'était pas une explication suffisante.
Oui, parce que jusqu'à maintenant c'était le cas et malgré tout on avait plus de liberté.
Et voilà, bien sûr. Et alors je me suis rendu compte que en réalité c'est un projet politique qui se déroule. Le néolibéralisme qui allie l'affichage de la liberté de principe ou des libertés de principe pour nous. Et en réalité, un système de surveillance accru. Et ce livre décrit l'histoire et le contenu de ce système politique.
Alors, vous commencez par un premier chapitre sur la démocrature, donc terme évidemment qui s'explique tout seul, très joli mot valise, que vous empruntez et vous citez vos sources. C'est-à-dire le livre là-dessus est impeccable, c'est une bibliothèque portative. Donc il s'agit de Linigé Goumaz et qui parle de la démocrature. Alors lui, il s'intéressait à l'Afrique subsaharienne et à la Guinée équatoriale, mais effectivement, quand on lit le livre, on se dit, par exemple, il y a plusieurs critères. Le simulacre de démocratie, c'est-à-dire il y a un théâtre institutionnel où toutes les institutions démocratiques ne servent en fait qu'à donner l'illusion d'une démocratie, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe après une dissolution. Le deuxième, c'est la concentration du pouvoir exécutif entre les mains d'une oligarchie, et bon, enfin, voilà, tous ceux qui regardent la manière dont les amis d'Emmanuel Macron sont aux manettes de telle ou telle institution ou de tel ou tel conseil d'administration d'entreprise. Et la troisième caractéristique, c'est la répression directe ou subtile. Bon, entre les gilets jaunes et les lois de contrôle de l'espace numérique, on a l'impression qu'on y est. Donc pourquoi ce concept de démocrature vous a-t-il paru aussi efficace ?
Alors d'abord parce qu'il est venu dans le débat public. Le mot de démocrature, on a commencé à l'entendre après l'arrivée au pouvoir de Macron. Avant, on ne l'entendait pas, on ne le connaissait pas. Sur un certain nombre de plateaux de vos confrères, quand on employait le mot démocrature, on disait ah non, vous exagérez beaucoup, enfin on n'est quand même pas la Chine, on n'est quand même pas machin. Bon. Mais le mot faisait fleurir, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est un mot qu'on comprend tous, c'est même pas la peine de l'expliquer. La conjonction des deux mots dit à elle seule. Et donc j'ai fait des recherches sur ce terme et je suis tombé sur ces deux ouvrages, celui d'Inigé Goumaz que vous avez cité, puis un autre de Gérard Vermey, qui est un journaliste français. Les deux ont 40 ans, ces deux livres-là. Donc ça fait 40 ans que des gens regardent un certain nombre de régimes prétendument démocratiques en assistant au maintien de l'illusion démocratique en même temps qu'une oligarchie confisque le pouvoir. Parce que c'est ça en fait, la démocrature c'est la confiscation du pouvoir par un petit groupe qui agit pour ses propres intérêts, ça s'appelle une oligarchie en philosophie classique. C'est un gros mot l'oligarchie, enfin c'est un mot...
Ah oui, c'est un mot qui sent mauvais.
Savant, comme on dit, entre guillemets, mais enfin c'est pas bien, l'oligarchie c'est pas bien. L'aristocratie c'est bien, le gouvernement plusieurs qui sont les meilleurs. L'oligarchie c'est les pires, un petit nombre de pires, c'est ce que nous vivons. Donc cette démocrature, il y a deux manières de l'aborder. La première c'est par le système politique, c'est ce que Linigé Goumaz, c'est un auteur suisse, fait dans un ouvrage qui s'appelle « Démocrature » d'ailleurs. Il y a 40 ans, en expliquant, comme vous le disiez très justement, les systèmes africains, encore une fois, de confiscation avec le maintien de... on continue à faire des élections pour désigner les dirigeants, on continue à dire que les institutions fonctionnent, on continue à faire comme s'il y avait une liberté de la presse, on continue à faire tout ça, on fait semblant. La réalité du pouvoir, la réalité des intérêts qui sont en jeu se joue ailleurs que dans les institutions. Et ce déplacement, cette confiscation, c'est le propre de la démocratie. Puis un deuxième critère, qui effectivement est davantage développé par un autre auteur que je cite aussi dans le livre, c'est Mermet. C'est un Français celui-là. Ça, c'est la question de la mainmise sur les médias, c'est-à-dire la volonté d'accompagner cette confiscation du pouvoir par un système de bridage des médias et de restriction de la liberté d'expression. Comme j'ai écrit, je crois, pour terminer un chapitre de mon petit livre, toute ressemblance, trois points de suspension.
Voilà. Vous ne le dites pas, mais toute ressemblance est clairement assumée. En tout cas, on l'aura compris. Ce qu'il y a de fascinant, c'est donc il y a ce système qui est décrit. Une fois plus, on décrit d'abord des systèmes politiques de l'Afrique subsaharienne et on se dit, voilà, on rigole en France des républiques bananières, mais en fait, on y est en plein. Et peu à peu, on se dit, mais ce système de démocrature est effectivement un projet politique avec des outils qui sont mis en place depuis longtemps, comme par exemple la propagande, et vous nous expliquez l'histoire de la propagande et la manière dont en France, mais comme partout ailleurs, il y a une propagande officielle, et évidemment, qui contribue en fait à former l'opinion et à l'empêcher en fait d'être véritablement libre.
En fait, comme je le disais tout à l'heure, tout ce que nous vivons n'arrive pas par hasard. Le système dans lequel nous entrons petit à petit, un mélange de crédit social à la chinoise et d'économie de marché, ce qui est d'ailleurs le propre de la vie de la Chine aujourd'hui, hein, pour être clair, a été théorisé il y a 100 ans par quelques personnes, dont vous citiez les noms tout à l'heure, on y reviendra peut-être, avec un constat et une conviction. Le constat, c'était le triomphe du libéralisme du 19e siècle, c'est-à-dire on fait confiance à la liberté individuelle, on laisse le marché fonctionnait tout seul parce qu'il y a quelque chose d'invisible qui s'occupe de réguler les prix, etc., et qui fabrique la prospérité. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'en fait, l'individu n'est pas du tout raisonnable et qu'il n'est pas du tout certain qu'il prenne les bonnes décisions. La preuve, la crise, énorme crise économique de 1873, dont j'avais jamais entendu parler avant de commencer à traiter cette question. La crise de 1873, c'est bien pire que la crise de 1929. Elle est plus longue, elle est plus dense. Elle met en faillite 10 des États des États-Unis. Elle provoque des centaines de milliers de chômeurs aux États-Unis. Elle fait fermer 90 compagnies ferroviaires. Il y a des émeutes qui font des milliers de morts. C'est un phénomène absolument massif. Et ça dure 30 ans. Et là, les libéraux se disent, mais ça marche plus notre truc. C'est-à-dire, si on voulait, nous, libéraux, je parle à leur place, émanciper l'individu au moyen de la liberté de commerce, le doux commerce de Montesquieu, ça marche pas. Parce que quand on laisse l'individu libre, c'est la foire, ça fait des crises, ça fait des catastrophes, ça fait... Donc il va falloir faire quelque chose. Et le constat, c'est de dire, bien, puisque nous avons deux principes qui sont, un, la liberté individuelle, deux, le fonctionnement du marché, il est évident qu'on peut pas se passer du marché, donc on va se débrouiller pour voir comment on peut restreindre la liberté individuelle. Et en fait, le néolibéralisme, c'est cette inversion. Les libéraux disaient, l'émancipation d'individus, elle se fera au moyen du marché et du libre marché et de la libre concurrence et du libre commerce. Les néolibéraux disent, le fonctionnement du marché se fera au moyen de la liberté des individus. Mais comme ça ne marche pas la liberté des individus, il va falloir la canaliser. Mais il ne faut pas le dire, parce que si vous commencez à dire aux gens que vous canalisez leur liberté, ils ne vont pas être contents. Donc on va faire semblant. Et donc le moyen, c'est ça. Donc le constat, c'était, il faut donner la priorité au marché sur la liberté, c'est-à-dire inverser le rapport initial des libéraux. Et le moyen, c'est de dire, on a appris pendant la Première Guerre mondiale à faire de la propagande massive, étatique, institutionnelle, en dehors des temps de guerre. Donc on va exporter la propagande en dehors des temps de guerre, alors que jusqu'ici, elle était plutôt confinée dans les espaces, des conflits. Et puis on apprend, des gens inventent les relations publiques, inventent la publicité de masse, apprennent comment manipuler les gens, comment orienter leur comportement. Et ça c'est Bernays, que vous évoquiez tout à l'heure, et le deuxième Walter Lippmann, très grand esprit, qui a traversé le XXe siècle américain avec beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, et qui nous explique, lui, que en réalité la souveraineté populaire est un mythe, qu'il faut... que les dirigeants en maintiennent l'illusion, mais qu'ils se débrouillent autrement pour gouverner. Donc plutôt que de dire au peuple qu'ils vont décider tout seuls, on va faire comme s'ils continuaient de décider, et on va confier le gouvernement des choses sérieuses à des experts. Donc nous avons, il y a 100 ans, ces deux personnes-là écrivent tout ça il y a une centaine d'années, la conjonction d'un système qui est fondé sur la propagande et le mensonge institutionnel, l'illusion démocratique, et le gouvernement des experts. Encore une fois, si ça vous rappelle quelque chose, c'est sans doute un hasard.
C'est sans doute exprès. Voilà. Et donc effectivement, dans Public Opinion, paru en 1922, Lippmann nous dit ça, et il conceptualise le rôle de la presse. Et là, c'est absolument fascinant, parce que donc, vous le citez abondamment, alors, il y a aussi The Phantom Public, etc. Et notamment sur la manière dont la presse est censée offrir une succession de récits fragmentaires qui donnent l'illusion d'un débat collectif, alors qu'il distribue en réalité des rôles déjà écrits. Voilà.
C'est ça, c'est la vision qu'a Lippmann de ces... de la manière dont on connaît, dont on appréhende le monde en tant qu'individu. Il y a derrière tout ça une anthropologie, évidemment, de référence. Pour Lippmann, alors, les deux, Bernays et Lippmann, écrivent au début du XXe siècle, en plein milieu du triomphe de la psychanalyse, de la science, des sciences cognitives, etc. Enfin, tout ça, on commence à comprendre, enfin, on imagine le matérialisme ambiant conduit à considérer qu'en fait, la connaissance humaine ne réagit que par association d'images, que par stimuli, etc. Enfin, c'est le contraire de la philosophie spiritualiste ou le personnalisme qui considère qu'on connaît aussi avec son esprit et que... Bon. Et donc, Lippmann considère qu'on ne peut avoir du réel qu'une connaissance fragmentée, ce qui n'est pas faux. Mais il en tire la conclusion que... Deux conclusions. La première, c'est que si vous voulez... considérer que le peuple peut être souverain alors que par définition nous ne pouvons avoir qu'une connaissance que du réel que fragmentée, alors c'est très imprudent parce que
c'est un souverain crétin,
c'est un souverain idiot, donc il n'est pas souverain du tout. Et il dit quelque part dans un de ses écrits, comment vous voulez demander à un citoyen de l'Oklahoma s'il faut faire la guerre au Japon ou pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il en sache? On a envie de lui dire, mais jamais dans l'histoire de l'humanité aucun homme n'a pris une décision en connaissant l'intégralité des éléments de sa décision et l'intégralité des circonstances dans lesquelles il l'apprend. Ça n'arrive pas. Ça s'appelle la condition humaine. Donc c'est pas une surprise. Mais donc les conclusions qu'il tire de ça sont déterminées par la volonté de mettre le peuple à l'écart des décisions qu'il concerne. Et il y a une forme de pessimisme en plus, parce qu'il répète à plusieurs endroits de son œuvre que c'est même pas la peine de consacrer des moyens... important à essayer d'éduquer les gens pour corriger cette limite, parce que de toute façon ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, à partir du moment où nous n'avons une connaissance que limitée de l'environnement dans lequel nous sommes, eh bien, pour y vivre, pour y survivre, et là on est dans une projection, hein, c'est une position philosophique en empirie de la connaissance, on appréhende le monde par le biais de cases qui sont prédéterminées dans notre esprit, qu'il appelle des stéréotypes, et on se fabrique des environnements dans lesquels les faits qui arrivent prennent leur place.
Et ils ne peuvent prendre leur place que dans ces stéréotypes. Oui. Et là, on a vraiment l'impression, la citation est absolument surprenante, que la presse, en fait, est là pour garantir que le fait va arriver dans la case, et si jamais le fait n'arrive pas dans la case, le fait n'existe pas. Je vous cite, citant Lippmann, « C'est ici que le stéréotype et les faits incontournables se séparent définitivement. Le plus souvent, nous ne voyons pas d'abord pour ensuite définir, nous définissons d'abord, puis nous voyons. » On a l'impression d'un mec du Monde en train de rédiger son article après Crépole.
Ben c'est
une fois plus, 1922-1925.
Oui, tout est écrit depuis très longtemps. Et c'est le... l'espèce de... Il y a un pessimisme profond sur la nature humaine dans ces ouvrages-là, dans cette perspective-là, dans cette vision. Le fait d'abandonner la mécanique éducative, le fait de considérer que la limite de l'homme, la condition humaine limitée est au fond une espèce de tare, et que politiquement, il n'y a rien à en faire, finalement. Et que parce qu'il n'y a rien à en faire, il faut laisser la masse de côté et puis laisser monter... Il faut prendre le peuple pour ce qu'il est, c'est-à-dire un public fantôme, spectateur qui n'existe pas, d'une pièce qui se joue sur une scène à laquelle il n'a pas accès, à laquelle il ne comprend rien, mais il faut continuer de faire semblant qu'en fait c'est lui qui écrit le scénario, qui choisit les acteurs et la manière de les faire jouer. Donc c'est une fracture terrible entre les dirigeants et les peuples, mais encore une fois, ce qui m'a frappé en écrivant ce livre, c'est au fond tellement actuel. Tellement contemporain, tellement...
Et on a vraiment l'impression, à vous lire, et donc je rappelle que nous sommes en train de recevoir Jean-Frédéric Poisson pour La dictature du bien aux éditions du Verbe Haut, que tout ça a été lu, digéré par des générations de politiciens et de conseillers de l'ombre et qui ont maintenant une ingénierie sociale parfaitement au point. D'ailleurs, vous parlez à la fois du crédit social à la chinoise et aussi du capitalisme de surveillance. On voit bien que la Chine est une espèce de modèle fascinant pour l'ensemble des démocraties entre guillemets occidentales qui voit dans cette alliance du marché et de l'État, du stato-consumérisme, vraiment le pinacle de la démocratie.
Oui. Y a une racine historique là aussi. Lorsque la Chine décide de passer à l'économie de marché, il y a une grosse trentaine d'années, presque 40, les dirigeants chinois sont frappés par un fait, qui est le très grand nombre de défauts de remboursement des prêts par les entreprises chinoises par rapport à ce que connaissent les entreprises et les banques américaines. Donc les Chinois font ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire qu'ils vont étudier sur place aux États-Unis le phénomène pour savoir ce qui se passe, et ils découvrent le système de ce qu'on appelle du rating ou du scoring, c'est-à-dire la capacité de noter les entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, de leur management, leur structure, leur politique d'investissement, leur positionnement, enfin des tas de critères. Et si vous avez une bonne note, et ben vous avez des bons prêts avec des bons taux et des longues durées. Si vous avez une mauvaise note, c'est des prêts très courts avec des taux élevés et des petits montants. Et les Chinois sont très contents de ça, ils importent ça. Et puis, comme ils découvrent en sortant de quelques dizaines d'années de maoïsme intensif, ils comprennent aussi qu'il y a un moment où il va falloir faire confiance à l'initiative individuelle, quand même, si on veut que ça fonctionne, tout ça. Mais pour autant, ils ont besoin d'avoir ce qu'ils désignent eux-mêmes, les gouvernants chinois, comme des citoyens de confiance. Et donc ils se disent, pour être sûr de nos citoyens, on va transposer le système de scoring, la notation des entreprises, on va les transposer aux individus. Et donc on va inventer un système dans lequel vous avez un permis citoyen à points, comme notre permis de conduire à nous. Quand vous faites des infractions, on vous retire des points. Quand vous faites des bonnes choses, on vous en ajoute. Et puis vous avez une somme de points sur votre compte. Vous avez 1000 points par exemple. Dans certaines villes, c'est 1000 points. Si vous traversez en dehors d'un passage clouté, on vous en retire 5. Si vous publiez sur les réseaux sociaux une critique contre le régime, on vous en retire 30. Si vous fréquentez quelqu'un qui est sur liste noire, on peut vous en retirer jusqu'à 50. Mais si vous donnez 2 heures de bénévolat dans votre quartier, une association qui s'occupe de je sais pas quoi, on va vous en redonner 20. Le problème, c'est que quand vous passez en dessous, par exemple, de 700, vous n'avez plus de visa pour aller à l'étranger. Et vous ne pouvez plus réserver un billet de train ou un bon hôtel. Si vous avez moins de 500 points, vous ne pouvez plus aller dans les parcs de loisirs, au cinéma, l'accès vous est interdit.
Je vous interromps une seconde, Jean-Frédéric Poisson, parce que là, vous n'êtes pas en train de nous décrire un épisode de Black Mirror, n'êtes pas en train de réciter un roman de science-fiction, vous êtes en train de décrire, et il faut que les auditeurs le comprennent, le contrôle social à la chinoise effectif tel qu'il a été organisé par le gouvernement communiste.
Absolument, c'est tout à fait ça. Ça a été pensé là aussi au début des années 2000, mis en place pour de vrai à partir de 2014, on va dire, les textes officiels du gouvernement chinois qu'on peut trouver facilement sur Internet, explique que c'est une nécessité pour le triomphe du socialisme de mettre en place ce contrôle des citoyens. Et vous avez en fait ce système, il est en fait fondé sur deux principes. Le premier principe, c'est que les libertés dont nous jouissons, nous occidentaux, français en particulier, de manière inconditionnelle du simple fait que nous sommes nés, les Chinois connaissent un régime de liberté conditionnelle. Alors vous allez me dire, mais quand même dans les pays occidentaux, y compris en France, votre liberté peut être rabotée, contrainte, vous pouvez être emprisonné, vous pouvez être mis à l'amende, vous pouvez être interdit de séjour, de rencontrer des gens, etc. etc. Oui, mais il faut une décision de justice. C'est-à-dire, si ça vous arrive, vous allez être convoqué devant le tribunal, et puis vous allez pouvoir vous défendre. Il y a un contradictoire, vous avez éventuellement des circonstances atténuantes, donc il y a une mécanique de dialogue qui s'instaure entre le corps social et vous quand vous avez commis une faute. Là-bas, rien de tel. Là-bas, vous faites une faute, on retire les points, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge, il n'y a rien du tout. Tout ça est d'une mécanique absolument implacable et impitoyable. Et effectivement, ce système est pensé, il a été pensé, il est mis en place et il est possible à cause et grâce à la prolifération de la technologie, en particulier de ces instruments de bonheur et de malheur que sont nos téléphones portables, on a tout ça dans la poche. Et c'est pour ça que le capitalisme de surveillance, expression inventée par une universitaire américaine il y a une petite dizaine d'années, qui s'appelle Shoshana Zuboff. Qu'est-ce que le capitalisme de surveillance ? C'est le système qui repose sur la priorité accordée à l'économie de marché, donc au commerce et à la marchandisation de toutes choses et à la financiarisation de toutes choses, appuyée sur la capacité d'orienter le comportement des citoyens ou de le surveiller grâce à la technologie moderne.
Alors, c'est Ellul, et vous le citez, voilà, qui met en avant ce rôle de la technologie. J'aurais rappelé le titre du livre, La dictature du bien. Tout ce que vous nous décrivez, qui est d'une certaine manière effrayant, d'une part c'est en Chine, mais c'est en train de débarquer dans les pays dits occidentaux.
Les pièces du puzzle sont en place en Europe.
Voilà, donc ce capitalisme de surveillance, on en voit déjà les effets avec la mise en place des passes sanitaires, etc. On voit aussi à quel point il y a un désir de surveillance. Mais à chaque fois, l'idée, c'est de nous vendre cette surveillance, de nous vendre ces diminutions des libertés individuelles en expliquant que c'est d'abord pour notre bien individuel. C'est évident, on est un peu trop crétin pour être capable de tout seul comprendre qu'il faut manger 5 fruits et légumes et ne pas voter le Rassemblement National. Donc on va nous y aider et même c'est pour le plus grand bien de tout le monde. C'est le bien est constamment mis sur la table comme étant la chose qu'il est impossible de nier. Et vous le dites très bien au début du livre, les guerres que conduit Emmanuel Macron, pardonnez-moi de penser brusquement à Emmanuel Macron dès qu'on parle de démocrature, ne sont pas destinées à venir à bout d'une situation donnée, mais potentiellement de vaincre tout ce qui n'est pas lui tout le temps. C'est une guerre permanente à défaut d'être vraiment totale. La guerre du camp du bien doit conduire contre le camp du mal, la raison contre l'errance, le vrai contre la manipulation, l'aristocratie contre les manants.
C'est ça, c'est là encore une fois le système dans lequel nous vivons chaque jour. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que en réalité nous assistons vraiment à la mise en place de l'illusion et d'une certaine manière une suspension, je ne veux pas dire la fin parce que je pense que la France se redressera comme elle l'a toujours fait, une suspension du débat démocratique. Il y a débat démocratique à partir du moment où on accepte l'existence, d'une certaine manière, de plusieurs biens pratiques qu'on peut poursuivre et de plusieurs opinions vraies qu'on aurait le droit de défendre. Dès que cette pluralité disparaît, il n'y a plus de, c'est pas la peine de nous dire que si on est en démocratie. Alors, tout le monde n'est pas forcément très démocrate et il y en a qui ne s'en plaindront pas. Soit, mais enfin, si on change de régime, d'abord, je préfère qu'on me prévienne, premièrement, deuxième, puis qu'on me demande mon avis. Et là, c'est pas du tout le cas. Nous sommes dans un système dans lequel, effectivement, si vous ne pensez pas comme le bien qu'on veut vous faire avaler, y compris de force, au chausse-pied ou au marteau, alors vous êtes un paria, et effectivement, vous êtes petit à petit mis au banc du débat public, au banc de la société. Et comment dire, considéré comme inapte à participer à la vie politique et à la vie sociale. C'est exactement ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui.
Alors, on assiste à ça aujourd'hui. Dans tous les éléments qui sont mis en place, il y a aussi l'idée qu'on n'a pas le droit de contester. C'est votre chapitre, l'un des derniers chapitres, page 139, le soupçon confisqué, que j'ai trouvé que le titre était remarquable. Complotisme, le soupçon confisqué, ou comment le pouvoir se protège du doute. Voilà, donc c'est vraiment fascinant de voir que, à chaque fois, le système est vraiment bien huilé. C'est-à-dire, quand des gens essaient d'y échapper, il y a un mécanisme correctif.
Oui, sauf que ça ne marche pas. L'excellente nouvelle, c'est que les complotistes d'aujourd'hui sont les historiens de demain. Je prends comme exemple l'affaire Kennedy. Alors, il se trouve que j'ai une passion depuis que je suis lycéen pour l'affaire Kennedy. J'ai dû lire 4 mètres de littérature et d'étagères sur le sujet dans toutes les langues. Je connais cette affaire par cœur. Enfin, ben, c'est pour moi d'ailleurs un moment absolument emblématique de l'histoire américaine et tellement révélateur. Mais ce qui est très frappant dans cette affaire Kennedy, c'est que la commission Warren, alors si nos auditeurs, il faut regarder ça, si vous aimez le complotisme, alors allez-y, parce que là vous en avez pour... La commission qui est chargée par l'État américain de dire ce qui s'est passé, publie une thèse, il y a un seul tireur à laquelle personne ne croit. Et petit à petit, cette affaire Kennedy va se développer autour de la contestation de la thèse officielle, dont aujourd'hui, 60 ans plus tard, on sait parfaitement qu'elle était fausse, voire fabriquée. Donc les complotistes d'avant-hier ou d'hier sont les historiens d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que dans un instant, il va y avoir Arthur de Vatrigan qui va nous rejoindre pour être brillant comme à l'ordinaire. Je rappelle que nous vous recevons pour la dictature du bien. Et je rappelle évidemment que pour être capable de défendre le bien contre la dictature, le vrai bien contre les démocrateurs, eh bien, il nous faut des sous.
Alors si vous souhaitez nous aider financièrement, vous pouvez le faire en ligne en vous rendant sur cette adresse soutenir.rc.fr et ainsi nous faire des dons en ligne. Et puis également envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et tout de suite, Arthur de Vatrigan.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Arthur.
Bonjour Richard de Seize.
Voilà, je suis avec Jean-Frédéric Poisson.
Je vous écoutais avec grand intérêt et vous venez de me mettre un gros coup de pression là.
Et ben, voilà.
Alors, je vous remercie, ou pas. Donc, bonjour, ça tombe bien parce que vous voulez parler de l'audiovisuel public qui n'est pas sans lien, évidemment, avec la démocrature extrêmement bien décrite par Jean-Frédéric Poisson. Il est des pouvoirs d'autant plus sûrs d'eux-mêmes qu'ils ne se reconnaissent pas comme tels, ils se croient naturels, ils ne s'imposent pas, ils vont de soi. Et donc, depuis longtemps, l'audiovisuel public fait partie de ses pouvoirs. Vous savez, ce espèce de magistère un peu feutré. Alors, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que l'audiovisuel public gouverne le pays, mais en tout cas, il en administre le récit, ce qui fait partie d'une gouvernance quand même. Une espèce de sanctuaire un peu moderne qui voit donc une petite caste se contempler sous les traits de l'universel. C'est un peu le problème ou le privilège des cléricatures tardives. On parle au nom de tous depuis son nombril. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que rien n'est vraiment caché. Les connivences, les indulgences, les enthousiasmes, les expulsions, les excommunications, tout ça n'est pas caché, mais à force d'en avoir l'habitude, ça devient presque invisible. Et depuis quelques mois, un député, Charles Alloncle, a remis toute l'affaire bien visible, au centre du jeu, au centre de l'actualité, au centre du débat politique, dans cette commission d'enquête parlementaire et qui s'est close donc hier avec la dernière audition de la présidente de France Télévisions, toujours aussi aimable, Delphine Ernotte. Et donc, ce sera intéressant de faire un petit récapitulatif de ce que cette commission parlementaire a permis de révéler. Et en tout cas, pour ma part, moi qui étais obsédé par le pluralisme, me disant qu'il fallait vraiment résoudre ce problème-là et que ça allait servir à ça, on se rend compte finalement que le sujet du pluralisme, c'est quand même pas grand-chose à côté de la thème presque mafieux de la casse qui nous gouverne. Alors, premier élément, selon les finances de France Télévisions, toujours intéressant de parler pognon quand les caisses sont vides, qu'on en cherche partout et que le contribuable paye plus de 4 milliards par an, parce que chaque année, les communiqués officiels de France TV étaient tout heureux d'expliquer que les comptes étaient extrêmement bien gérés, comme Macron d'ailleurs. Donc, pour une institution qui coûte, alors pour France TV, on est un peu moins de 3 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu moins de la moitié du budget de la culture, mais tout de même, finalement, on découvre qu'il n'en est rien, puisqu'on a appris qu'entre 2017 et 2024, le cumul des résultats, c'était moins 81 millions d'euros de pertes. Mais si on creuse, en regardant 2-3 papiers, vous savez, les comptes rendus, des choses comme ça, l'affaire de la Cour des comptes, nous, on a découvert qu'en fait, c'était même plus que ça. Parce que France Télévisions, c'est un groupe. La société mère, c'est une société anonyme, une SA. Et cette société mère détient des filiales. Deux produisent des films de cinéma, une distribue des programmes dans le monde, une autre est une régie publicitaire, et puis il y en a d'autres qui louent des biens immobiliers. Et dans ces filiales, il y en a qui gagnent très bien leur vie, qui rapportent de l'oseille en millions d'euros. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'en 2017 et 2024, le cumul des résultats de France TV du groupe est bien de moins 80 millions d'euros, mais on voit aussi que ces filiales qui gagnent de l'argent ont remonté sur la même période plus 174 millions d'euros. Ce qui fait que si on enlève les filiales, et en fait le vrai résultat, ce n'est pas moins 81 millions d'euros, c'est moins 256 millions d'euros. Donc pour un business bien géré, comme on explique depuis des années, ça fait un peu tâche. Alors ensuite, sur le pluralisme, personne n'a découvert via cette commission, que le pluralisme était absent, l'audiovisuel public, et que certains ont profité pour injecter en intraveineuse à haute dose une bonne propagande. Mais il y a quand même des choses que je n'imaginais pas, ou en tout cas pas à ce point-là. Par exemple, France TV Slash. Vous savez, c'est une plateforme qui s'adresse aux 15-35 ans. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? qu'il y a la promotion de contenu pornographique transsexuel, des appels à relayer la cagnotte pour le comité Adama Traoré, des injonctions pour ne pas dire bonjour madame ou bonjour monsieur parce que ça mégenre les personnes. On y trouve aussi des contenus qui font la promotion des vertus thérapeutiques des champignons hallucinogènes et d'autres qui présentent le cannabis comme un levier de relance de l'économie. Et tout ça, je rappelle, c'est à destination des mineurs. En propagande, on est pas mal. Alors, je disais qu'on parlait d'une caste. Bah, qui dit caste, dit service rendu, forcément. Et alors là, on a découvert que France TV, c'est 9000 salariés. C'est trois fois plus que M6 et deux fois plus que TF1. Et l'immense majorité des contenus diffusés ne sont pas produits en interne. Alors, dans le cahier des charges, ils ont un impératif de production en externe, mais ils doivent produire à hauteur de 300 millions en externe. Et là, on découvre que c'est presque 1 milliard. Donc, ils sont quand même très généreux. Donc, 1 milliard consacré au grid programme, dont vous l'imaginez, des centaines et des centaines de millions d'euros versés à des sociétés de production pour qu'ils créent des programmes. Et le truc, c'est que ce milliard-là échappe aux règles ordinaires du marché public parce qu'il s'agit d'œuvres de création. Ils ont un passe-droit. Alors, très tôt, Charles Lalonque a demandé des avis, les comptes rendus, vous savez, ces comités d'investissement. Parce que quand vous filez 1 milliard comme ça par an, c'est bien d'avoir un petit compte rendu de réunion. Et il reçoit une réponse au bout de 3 mois après 10 relances. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de compte rendu. Alors là, une semaine plus tard, il auditionne les directeurs des unités de production de France TV, fiction, divertissement, documentaire, et il leur demande, sous serment, s'il y a des traces de ces décisions. Et là, il répond tous en cœur, oui quand même, tel un héros welbeckien. Donc bon, il découvre que le type d'avant, qui était le numéro de France 2, lui avait intentionnellement menti. Il dit, très bien. Alors, il n'était pas sous serment, c'était pas écrit, en dehors de la commission. Donc, il demande « Très bien, envoyez-moi ça ». Et en fait, il reçoit, c'est un tableau Excel avec 2 colonnes, il écrit un justificatif rapide et devant la somme. Donc, pour distribuer 1 milliard, ils sont quand même pas très précautionneux. Alors, si on va dans le détail, c'est assez intéressant, que là, c'est suspicion de conflit d'intérêt à haute dose. Je vous donne 3 exemples. Un exemple, une directrice de France de fiction, de France TV, qui se voit offrir des vacances chez des producteurs à qui France Télévisions attribue des contrats. C'est quand même sympathique, quoi. Donc, Charles Lalonque lui dit, oui, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Alors, au début, elle balbutie, puis elle se rappelle qu'elle est sous serment. Quand on est bien républicain, c'est quand même embêtant. Donc, elle dit, mais ça peut arriver. Mais dans ce cas, et là, elle trouve l'explication géniale, dans ce cas, c'est pas moi qui décide. Ce sont mes N-1. Évidemment, les N-1 vont faire ça en toute liberté. Alors, un autre exemple encore pire, là, c'est l'ancienne directrice de France 5. Alors, elle signe des contrats à plusieurs millions d'euros avec la société Together Media, vous savez peut-être pas, mais c'est la société qui produit ces émissions magnifiques, ces politiques, qui sont l'exemple de la neutralité exceptionnelle. Et en 2020, elle quitte France TV avec un petit chèque de 400 000 euros. Merci, la rupture conventionnelle, encore une belle idée de Sarkozy. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le chèque et elle rejoint la société Together Media pour prendre la direction des émissions qu'elle avait elle-même attribuées. Quand même pas mal, les échanges pour bon procédé. Un dernier pour la route, ça c'est mon préféré parce que c'est conflit d'intérêts et conflit politique. On découvre l'existence d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Ngacha. Monsieur Ngacha était maire adjoint d'Anne Hidalgo. Alors il n'est plus maire adjoint depuis pas très longtemps, mais il l'était en tout cas à plein temps. Il recevait donc une indemnité de 60 000 euros par an de salaire, ce qui est quand même sympathique. Mais on découvre qu'il était aussi sous contrat à France Télévisions à plein temps, pour un salaire net de 100 000 euros. Alors, Delphine Ernotte, dans sa première audition, afin de lever tout soupçon d'emploi fictif, sur le directeur des opérations spéciales, c'est le titre de sa fonction, c'est quand même assez amusant, explique sous serment, non, mais il bosse vraiment, il s'occupe du Téléthon. Or, quelques semaines plus tard, le monsieur en question est reçu à la commission d'enquête. On lui dit, mais monsieur, vous faites quoi? Est-ce que vous avez travaillé pour le Téléthon? Il répond absolument pas, jamais fait cette émission. L'exemple de mensonge assez sympathique. Enfin, dernière chose amusante, pour finir cette fois-ci sur l'ARCOM et le pluralisme. Vous savez, chaque année, l'ARCOM produit un rapport sur l'exécution des cahiers des charges de toutes les chaînes, et notamment de France Télévisions. Et là, donc, en janvier 2026, il y a eu le rapport sur le contrôle du cahier des charges de l'année 2024. Et ça, je vous conseille de lire, franchement, il y a des pépites exceptionnelles. et notamment son chapitre dédié aux obligations relatives au pluralisme et aux campagnes électorales. Premier trimestre 2024, on est dans une période normale, le régulateur relève des manquements. Bon, c'est rassurant, parfois l'ARCOM voit que France Télévisions n'est pas vachement plurielle. Dit bon, on note les manquements, on fait la petite liste, on la remonte. Et puis là, on arrive au deuxième trimestre 2024. Et rappelez-vous, deuxième trimestre 2024, donc on a eu deux élections. Une élection européenne, puis derrière dissolution, donc une élection législative. Eh bien, je cite le rapport de l'ARCOM. Devant l'importance du volume horaire consacré par la majorité des chaînes à la couverture des élections européennes et législatives, l'ARCOM a décidé de ne pas porter d'appréciation sur les temps de parole. En gros, on est payé pour vérifier le pluralisme, mais là, il y a deux élections, déjà une, c'est beaucoup, il y en a deux, ça fait beaucoup de boulot, donc on ne va pas faire le boulot. Comme ça, on est peinard et on n'a pas de compte à rendre. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous récapituler, parce qu'on a eu beaucoup de choses. Je trouve que ça donne un aperçu assez intéressant de ce qu'il faut réformer, ou en tout cas essayer de réformer avant de fermer complètement la chaîne. Espérons que ce rapport soit voté. Ça, c'est moins sûr, parce que je rappelle à nos chers auditeurs que le camarade Alloncle va rédiger ses conclusions dans un rapport. Pendant 3 jours, ce rapport sera présenté dans une salle où les membres, la trentaine de membres de la commission devra aller le consulter. Et puis, ils n'ont pas le droit de l'embarquer, ils n'ont pas le droit de prendre de photos. Et puis ensuite, ils devront voter. Et si la majorité vote contre, eh ben, ce rapport ne doit pas être publié. Et tout ce qui a été fait durant ces mois de commission d'enquête, donc les comptes rendus, les témoignages, les vidéos, devront être effacés et personne n'aura le droit d'utiliser ces informations et ces faits, sinon on risque de poursuites pénales, tout simplement. Donc vivement fin avril pour savoir ce que vont faire nos députés.
Merci beaucoup Arthur de Vatrigan et vous restez avec nous pour reprendre cette discussion avec Jean-Frédéric Poisson.
Ligne droite,
nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Jean-Frédéric Poisson, donc, je suppose que en tant que député, je crois que vous avez vous-même présidé une commission d'enquête, oui. Vous êtes à même de juger de cet exemple de démocrature que paraît être France Télévisions.
Une chose d'abord qui me paraît très importante, et merci à Arthur Daltrigan pour cette belle chronique, très, malheureusement très juste. Il a raison de dire que si jamais le rapport n'était pas... Si la publication du rapport n'était pas décidée par la commission, puisque c'est la procédure, à la majorité simple, hein, toutes les traces matérielles des travaux de ces 4 mois d'audition seront purement et simplement annihilées, avec interdiction, y compris pour le rapporteur, d'en faire quoi que ce soit, d'utiliser matériellement ces choses. Donc j'alerte nos auditeurs, si vous voulez conserver, avoir dans vos archives et avoir accès aux auditions, etc., dépêchez-vous d'aller les enregistrer sur le site de l'Assemblée nationale, parce que à la fin du mois d'avril, ça pourrait disparaître, et donc il y a là une mine en termes de dysfonctionnement d'un service public qui est tout à fait exemplaire du système dans lequel nous vivons, plus la manière dont les médias faussent en réalité le débat public et alimente ce phénomène de confiscation du pouvoir qu'on évoque depuis tout à l'heure, avec, comme disait Arthur de Vatrigan au début de sa chronique, une espèce de sentiment d'impunité, d'incompréhension sur le fait d'avoir à rendre des comptes. C'est ça qui m'a le plus frappé dans les dernières auditions, c'est que les gens viennent dire, enfin, de quel droit vous me demandez des comptes? On a envie de lui dire, coco... Enfin, c'est quand même notre argent.
Excuse-nous, oui, mais... et puis c'est surtout la représentation nationale, ça fait partie ailleurs, de ses missions en fait.
Voilà, c'est ça, ça s'appelle le contrôle de l'exécutif. Donc voilà, j'ai effectivement eu l'honneur de présider une commission d'enquête sur les moyens de Daesh à l'Assemblée après les attentats du Bataclan. Je dois dire que pour avoir suivi de temps en temps les travaux de la commission présidée par mon collègue Alloncle, je suis à la fois surpris et pas surpris. Surpris parce que le climat dans lequel se déroulent les auditions et les entretiens, les rapports entre le président et le rapporteur, c'est quelque chose d'inouï. Enfin, ma génération n'a pas connu ce genre de rapport-là. Même s'il pouvait y avoir de temps en temps des frictions et des tensions. Mais enfin, pas devant les enfants, comme on dit. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est des choses qu'on maintient dans une espèce de cercle fermé. Mais pas surpris, parce que par ailleurs, c'est probablement aujourd'hui la culture de l'Assemblée nationale qui est faite de confrontations et de clashs et de bagarres plutôt que d'échanges et de débats, fussent-ils vifs. Je souhaite vraiment que la commission puisse publier ce rapport. Il y a un précédent, comme vous le savez sans doute, hein, c'est le rapport de mon collègue Nicolas Perruchot, député maire de Blois à l'époque, qui avait remis un voulait remettre un rapport sur le financement des organisations syndicales de salariés. Et il était tellement bon, ce rapport, c'était en 2008 ou 2009, donc pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Ce rapport était tellement bon et tellement intéressant que la majorité sarkozyste de l'époque, dans la commission, a décidé que le rapport ne serait pas publié. Mais il a fuité. L'Express en a publié quelques semaines ou quelques mois plus tard, quelques bonnes feuilles, de sorte qu'on a fini quand même par avoir le fin mot de l'affaire.
Et ben, espérons. Dans votre, de, tout ce qu'on raconte, évidemment, me fait penser à un passage qui est au début de votre livre. En fait, on se dit, la démocrature, comment est-ce que ça marche ? Comment faire en sorte qu'il y a des gens qui acceptent qu'il y ait une apparence démocratique et en fait pas du tout de vraie état de démocratie entre corruption et contrôle social ? Et la conclusion de Max Ligny-Jégoumaz est de dire... il n'y a pas de démocrature sans démocrates complices. Arthur de Vatrigan, est-ce que vous pensez qu'il y a des démocrates complices de la démocrature ? Je ne parle pas uniquement de France Télévisions.
Ah, y a plusieurs choses. Alors déjà, on voit qu'il y a quand même un problème sociologique. C'est-à-dire que tous les postes de gouvernance, soit légitimes ou illégitimes, et quand j'appelle illégitimes, c'est-à-dire des postes de gens qui nous gouvernent mais qui ne sont pas élus, en fait, ils viennent tous du même bac à sable. Ce qui est assez effrayant, si vous regardez sociologiquement, ils sont nés au même endroit, ils passent globalement les vacances au même endroit, leurs enfants sont scolarisés dans les mêmes écoles. Donc, il y a un problème sociologique. Et donc, moi, je crois vraiment à leur sincérité de se persuader honnête, objectif, neutre, et d'agir pour le bien en dehors de toute idéologie. Premièrement. Ensuite... il y a un fonctionnement politique qui est notre régime aujourd'hui, qui fonctionne entre guillemets parce qu'il y a des élections, parce qu'il y a l'élection d'un président, l'élection d'un député, ensuite l'élection, une fois que les députés sont élus, du président de l'Assemblée, tout le truc que vous connaissez. Et donc il y a des démocrates qui pensent sincèrement que ça fonctionne. Sauf qu'on regarde à chaque... élection, en tout cas depuis les récentes, depuis qu'on a deux partis aux extrêmes, comme on dit, qui ont de plus en plus d'importance, sont excommuniés à chaque fois après une élection. Ce qui fait qu'on a un corps civique légitime qui est très restreint par rapport au nombre de citoyens. Et donc forcément, ça crée une vue de biais. On a le sentiment que nous sommes des démocrates. Et alors, je sais qu'il y a des salauds là-dedans qui en profitent, évidemment, mais je pense qu'il y a une majorité de personnes qui se pensent sincèrement démocrates et qui ne voient pas le problème. Il y a cette chose-là. Ensuite, dernière chose, il y a quand même aussi une complicité de nos concitoyens. Parce que, pardon, mais alors c'était amusant, hier soir, je vais vous raconter ma vie. J'étais au premier retour de sur scène de Michel Houellebecq, ce qui était assez amusant. Bon, comme ça se termine tôt, je me retrouve avec des journalistes et on discute. Et évidemment, tout de suite, on arrive sur le sujet Covid. Bon, et là, on commence à se remémorer en rigolant, avec des bons et mauvais souvenirs, tout ce qui s'est passé. Vous connaissez ma position, cher Richard, j'étais plutôt dans l'espèce d'entre-deux, voire pas très très anti-pass et compagnie à ce moment-là. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que je pense. Néanmoins, quand on se rappelle de ce qui s'est passé, une majorité de nos concitoyens étaient d'accord. Bien sûr. Une majorité de concitoyens réclamaient le confinement. Une majorité de citoyens réclamaient des passes sanitaires, une majorité de citoyens réclamaient que les enfants n'aillent pas à tel endroit, que les bistrots soient fermés, que tout ça. Donc, est-ce que c'est des complices de la démocrature, ou alors ceux qui nous gouvernent dans cette démocrature sont démocratiquement encouragés par une majorité des gens ?
Alors, je me permets de répondre à votre place, étant donné que le principe même de la démocratie est d'influencer en permanence le peuple, comme le prouve l'excellent ouvrage « La dictature de bien » de Jean-Frédéric Poisson. Voilà, donc on est d'accord. Jean-Frédéric Poisson, votre dernier chapitre est évidemment beaucoup plus satisfaisant que les autres. Dans les 14 premiers, vous nous décrivez qu'on est dans la panade la plus complète, et dans le 15e, le retour du politique, sortir de la dictature du bien, qui commence par une très belle citation d'Anna Arendt, là où l'autorité s'est effondrée, la seule issue est sa réinvention. Bah, comment faire pour sortir de cette démocratie?
Un mot d'abord sur ce que vient d'évoquer Arthur de Vatrigan, mais qui me permettra de répondre. Il y a un petit chapitre dans ce livre qui s'appelle « La bourse ou la vie ». Initialement, je voulais en faire le titre de l'ouvrage parce que ça me paraît très révélateur, « La bourse ou la vie ». Dans les autant des bandits de grand chemin, « La bourse ou la vie », c'était « Donne-moi ta bourse ou je te prends ta vie ». Aujourd'hui, on a inversé le rapport. C'est « Donne-moi ta vie », c'est-à-dire « Fous-moi la paix et je te laisserai ta bourse, je te laisserai vivre dans le confort et dans la ouate ». Mais tu seras privé d'un certain nombre d'instruments de ta liberté, de ta vie spirituelle. Et je mets quelque part dans le petit livre, dans ce livre aussi, la très belle citation de Bernanos qui dit que on ne comprend rien à la modernité si on ne voit pas qu'elle est une lutte permanente contre la vie intérieure. C'est ça l'enjeu en fait. C'est-à-dire qu'on échange petit à petit le confort ou ce qu'on croit être du confort ou du bien-être matériel contre une forme de tranquillité. Cette espèce de fable dont il faudra faire la peau définitivement un jour, la première des libertés, c'est la sécurité, ça n'est pas certain. Là aussi, je cite Jean-Jacques Rousseau, qui explique qu'on est tout à fait en sécurité en prison. Si on veut bien réfléchir à cette phrase plus de deux secondes, on se rend compte que ce n'est pas si clair que ça. Comment en sortir ? Moi, je crois d'abord beaucoup que l'histoire de la France démontre que quelques centaines de personnes ont réussi systématiquement à redresser le pays, même dans les circonstances les plus difficiles. Deuxièmement, je pense qu'il est temps de faire confiance au peuple. J'ai écrit il y a quelques années un petit livre qui s'appelle « La voix du peuple », dans lequel j'expliquais que les libéraux comme les collectivistes ont un ennemi commun, ça s'appelle les corps intermédiaires. C'est-à-dire la capacité pour les citoyens d'organiser eux-mêmes les lieux de production, les lieux de vie, les lieux de bénévolat, les lieux d'éducation, et qu'en fait, ils peuvent déléguer après par subsidiarité à l'État ce qu'ils ne sont pas capables de faire tout seuls. Rétablir les corps intermédiaires, ça me paraît absolument essentiel, mais surtout, il y a la question de l'autorité. Ça, c'est problématique. Et on ne rétablira pas la chaîne de l'autorité dans notre pays si on ne commence pas par le pouvoir politique. C'est-à-dire si le pouvoir politique n'est pas lui-même absolument exemplaire, s'il ne donne pas des gages de cette exemplarité au peuple. Par exemple, vous pourriez, comme aux États-Unis, faire prêter serment publiquement par le chef de l'État, au moment où il prend ses fonctions, sur la Constitution, et assortir le fait que ce serment ne soit pas respecté d'une peine de destitution ou d'un assouplissement des procédures de destitution. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Mais je pense que la confiance, ça commence par le haut. C'est vrai dans toutes les organisations. Ça ne se décrète pas, ça se donne. Et ça se donne par celui qui a la responsabilité de faire marcher le dispositif. Si les responsables politiques ne commencent pas, eux, par
être exemplaires
et redonner confiance, et faire confiance au peuple français, l'inverse de la gestion du Covid, pour être clair, où l'État a voulu tout faire et qu'il a fait tout n'importe comment, alors rien n'est possible. Alors vous pouvez après imaginer toutes les politiques publiques que vous voulez, dire tout ce que vous voulez sur les impôts, l'immigration, l'école, la diplomatie, l'aménagement du territoire. Si vous ne rétablissez pas cette chaîne de l'autorité et de l'exemplarité, vous perdez votre temps. Sans ce que les philosophes appellent des conditions de possibilité. C'est-à-dire sans ça, en fait, rien ne sert à rien. Rien n'est possible. Et c'est la raison pour laquelle la question est posée de savoir si l'élection présidentielle de 2027 servira à quelque chose ou pas. Et je pense que cette question se pose de plus en plus, de manière de plus en plus prégnante. Il faut que les citoyens s'approprient cette élection plutôt que de se la faire imposer, là encore, par le système médiatique qui a d'ores et déjà décidé qu'Édouard Philippe sera le président, le prochain chef de l'État, ce qui pose question tout de même à minima.
Oui, Édouard Philippe, effectivement, nous est présenté comme un phénix sans cesse renaissant de ses cendres. Et voilà, on a été très étonnés. Voilà, il passait sa vie à se casser la figure dans les sondages et brusquement, à la faveur de son élection au Havre, voilà, qui effectivement est une espèce de séisme politique d'ampleur et la preuve qu'il est capable de diriger le pays, le voilà porté au pinacle. On va peut-être continuer cette conversation. Arthur de Vatrigan, je crois que vous n'avez pas encore lu La dictature du bien, mais que évidemment vous allez vous ruer sur le livre de Jean-Frédéric Poisson que je remontre à l'écran avec bonheur.
Il le recevra dans les heures qui viennent par service de presse, je le rassure tout de suite.
Voilà. Vous, ce concept de démocrature, il vous paraît être opérant ou pas ?
Ah oui, complètement. Moi, je me pose une question depuis un certain temps. C'est à partir de quelle date en France la recherche du bonheur a remplacé la recherche de la vérité?
Ah, c'est la Révolution française.
Voilà, c'est la Révolution française. Oui. Voilà.
Il y a une idée nouvelle en Europe, dit Saint-Just, c'est le bonheur.
Alors ça, c'est un premier acte politique. Mais dans la tête des gens, parce que si vous regardez, moi, ce qui est fascinant, ce qui est effrayant, alors vous citez cette merveilleuse phrase de Bernaud, je suis d'accord, et d'ailleurs, ça se traduit par ce que vous décriviez très bien, nos téléphones qui sont une expansion de la main. les télés, évidemment, tout ça, alors pas la radio. Mais moi, ce qui me fascine, c'est les bibliothèques, les librairies, les FNAC, les grandes surfaces. C'est-à-dire le rayon bonheur, santé, coach, bouffe tout. Mais bouffe tout, il n'y a plus que ça. Je ne sais pas, je n'étais pas né, mais il me semble que dans l'entre-deux-guerres, il n'y avait pas ça, il y avait encore des romans, il y avait encore des écrivains, il y avait encore tout ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça date de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale? On se dit, la vérité nous a créé deux guerres, elle a créé un génocide, on va arrêter de parler de vérité parce que ça se finit en massacre et donc on va inventer une fable et puis ça tombe bien comme il y a la reconstruction de l'Europe et le marché va gouverner. Ou ça date encore d'avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est ça. Et que la vérité, c'est quelque chose qui est fui. On refuse de ça. Et en plus, si vous ajoutez depuis quelques années à ce que Marcel Gauchet appelle une dépolitisation, non pas que la politique n'intéresse plus les gens, mais que il y a une polarisation telle qu'on ne veut plus discuter. Le principe du politique, c'est une arène publique, on débat, on se met sur la tronche, on décide, on vote, et puis là, il n'y a plus de ça. Donc, si vous associez les deux, la recherche du bonheur qui remplace la vérité, plus la dépolitisation extrême, ce qui fait qu'on n'a plus que des gens tellement sûrs d'eux qu'ils refusent tout débat, et ça conduit, je le rappelle, à un gamin qui s'appelle Quentin Durand qui s'est fait buter à coups de pied dans la tronche par terre. Mais 2 ans avant, rappelez-vous, vous avez Mme Braun-Pivet qui refusait de serrer la main à un député parce qu'il était fasciste. Vous mettez tout ça dans un shaker, je vois pas comment ça peut bien se terminer.
Mais je vous en prie.
Je partage une petite nuance, si Arthur de Vatrigan me permet. Je dirais peut-être pas que la recherche du bonheur a remplacé la recherche de la vérité. Je dirais maintenant qu'elle se fait sans la recherche de la vérité. C'est-à-dire, dans la philosophie classique, on avait cette conviction selon laquelle s'il n'y a pas de vérité sur l'homme, si on ne se connaît pas, ne connaît pas la vérité sur soi-même, c'est pas facile de déterminer la manière d'agir bien. Or, être heureux, ça veut dire agir bien dans la pensée classique. Donc la vérité pratique et la vérité théorique étaient d'une certaine manière indissociables aujourd'hui. Depuis que l'OMS a changé sa définition de la santé, et en assimilant la santé à l'expression la plus parfaite du bonheur, c'est-à-dire l'état dans lequel il y a un plein contentement corporel comme spirituel, psychologique, machin, c'est devenu la santé le paradigme du monde moderne. Et effectivement, quand on est limité à la sphère matérielle, c'est la sphère de tous les dangers.
Absolument. Merci mille fois Jean-Frédéric Poisson. La dictature du bien aux éditions du Verbe Haut. Et j'espère pouvoir vous recevoir plus longuement sur Radio Courtoisie pour parler de ce livre absolument indispensable.
Quand vous voulez.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Dans un instant, nous recevrons Benoît Dumoulin pour parler de la laïcité, problème crucial. Et après, évidemment, Jean-Edgana et Ludovine de la Rochère nous permettront d'avoir leur propre chronique. Mais tout de suite, le rappel des titres avec Maïlys Clauzel.
Victoire pour cinq militants identitaires relaxés par le tribunal de Paris après une banderole en hommage aux victimes du Bataclan. La justice écarte tout appel à la haine. C'est un nouvel échec pour SOS Racisme et Laurent Nunez. Et Rima Hassan dénonce des fuites d'informations de sa garde à vue. Gérald Darmanin saisit l'inspection de la justice pour défendre son porte-parole, accusé d'avoir joué le messager avec la presse. Mais dans l'affaire Quentin, des informations ont fuité aussi sans que le pouvoir ne lève le petit doigt. Et Anne Sicard et Julien Odoul proposent d'interdire le voile et les signes religieux en conseil municipal. Objectif, faire respecter la neutralité religieuse aux élus locaux. Les élus patriotes dénoncent le symbole politique qu'incarne le voile islamique, notamment dans les villes gauchistes. Et nous célébrons ce 9 avril Saint-Gauthier de Picardie, Saint-Vadim, Saint-Vautru, Sainte-Maldeberge et Sainte-Adeltrude.
Sainte-Adeltrude, merci beaucoup.
Ligne droite.
Et nous allons donc débattre avec... dans un instant, avec Benoît Dumoulin, sur la laïcité.
Le samedi 11 avril prochain, comme chaque année, l'Institut Iliade organise le plus grand rendez-vous métapolitique de droite. Le colloque de l'Iliade, c'est plus de 1500 participants réunis à la Maison de la Chimie, à Paris, pour une journée d'intelligence et d'engagement. Des personnalités, des artistes, des intellectuels, des jeunes au service de leur communauté se retrouveront pour penser la France et l'Europe de demain et réfléchir ensemble à la meilleure façon de défendre nos libertés, thème de cette année. Autour de la buvette, des dédicaces ou sur les très nombreux stands, retrouvez les chroniqueurs et invités vedettes de Radio Courtoisie. Laurent Oberton, Jean-Hugues Gana, Pierre Larty, Jean-Yves Le Gallou ou Alice Cordier seront heureux de vous saluer. Ne manquez pas cet événement unique. Rendez-vous le 11 avril à Paris pour le colloque, suivi cette année d'un grand bal traditionnel. Les billets sont en vente sur institut-iliade.com.
Ligne droite, débattons-en.
Et donc débattons-en avec Benoît Dumoulin. Vous êtes bonjour Benoît Dumoulin.
Bonjour Richard de Sèze.
Vous êtes directeur de l'association Ictus, aussi de l'Institut du Pont-Neuf. Vous donnez des cours de droit et vous venez de sortir un livre, Quelle laïcité pour demain, qui est assez éloigné de la manière dont Vincent Peillon en parlerait lui-même, mais qui est tout à fait intéressant. Je voudrais vous faire réagir d'abord sur un point d'actualité qui me paraît tout à fait en ligne avec ce que vous mettez en avant dans ce livre paru aux éditions Pollen. Donc les députés Anne Sicard et Julien Odoul viennent de déposer une proposition de loi visant à interdire le port du voile islamique et les signes religieux ostensibles lors des conseils municipaux. Est-ce que c'est une proposition de loi pertinente ?
C'est une fausse bonne idée. Effectivement, on a vu qu'à l'issue des élections municipales de mars dernier, il y avait eu une entrée fracassante des élus LFI dans les conseils municipaux. Ça avait posé des problèmes, notamment à Chalon-sur-Saône, où il y avait un maire courageux, Gilles Platré, qui avait pris, sur le fondement du règlement de l'Assemblée nationale, un règlement qui interdit les signes religieux. Une fausse bonne idée, pourquoi ? Parce que l'idée est de lutter contre le communautarisme musulman, et donc l'idée était de dire, bon bah voilà, il ne faut pas que le communautarisme s'invite chez les élus et on va leur demander de se dépouiller de signes religieux. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que quand on est élu, on n'est pas un fonctionnaire. On vient et on vote avec toutes ses idées on ne va pas leur demander de se dépouiller, d'être complètement aseptisé. Et il y a même une conséquence qui est, à mon avis, très néfaste, que ne voient pas les auteurs dont vous parlez, qui sont, à mon avis, animés des meilleures intentions. C'est que dans certaines communes de France, notamment des petites communes, où vous avez des abbayes dont le poids démographique est assez important, parce que les moines peuvent, par exemple, constituer jusqu'à 20 ou 30% du corps électoral, bah, traditionnellement, vous avez un moine qui siège au conseil municipal. Donc là, avec une loi comme ça, vous allez leur demander d'enlever
leur cool.
D'enlever leur... Vous voyez, vous arrivez à des conséquences qui sont assez absurdes. Et puis, l'idée qui est derrière, c'est de dire, dans l'arène publique, lorsqu'on vote, on ne doit pas prendre en compte des considérations religieuses. Bah, pourquoi ? En fait.
Vous dites d'ailleurs très bien dans l'introduction de votre ouvrage que la laïcité française est une exception culturelle qui étonne toujours nos voisins. Certes, les sociétés occidentales sont sécularisées, mais l'Occident ne représente que 15% de la population mondiale. Et dans le reste du monde, au contraire, les normes politiques de référence qui régissent la vie des hommes procèdent d'un fondement religieux, mythologique ou traditionnel qui est intégré. Et donc, il n'y a que dans l'Occident qu'on considère que le religieux ne devrait pas faire partie de la vie publique.
Et que dans une certaine partie de l'Occident, parce que la France est elle-même isolée pas dans l'Occident. Hein. Aux États-Unis, il y a d'autres problèmes, hein, mais il n'y a pas cette conception de la laïcité. L'idée qui préside à la laïcité française, c'est une laïcité par soustraction. Alors que la vraie laïcité, c'est une laïcité par distinction. Pas de mélange des genres, chacun a son rôle. L'Église cherche le salut des âmes, l'État, le bien commun de la société. Mais la laïcité par soustraction, c'est de dire, quand on vote, quand on se réunit, quand on doit décider quelque chose, il ne faut surtout pas faire appel à des considérations religieuses comme si on devait s'amputer d'une partie de nous-mêmes pour décider de l'avenir, pour décider de l'homme, pour décider d'édifier la société de demain. Et ça, je pense que c'est non seulement propre à la laïcité française, mais en plus c'est très mauvais parce que ça induit l'idée que les religions, et singulièrement la religion catholique, seraient source de conflits qu'il faudrait les mettre à distance lorsqu'on décide politiquement.
Et ça, c'est véritablement une lente élaboration de cette laïcité à la française, donc qui commence avec l'État moderne et donc après les guerres de religion, qui s'accentue avec la Révolution française, qui triomphe avec la Troisième République. En fait, il n'y a plus qu'un ennemi de l'ordre public, il n'y a plus qu'un adversaire du bien commun, c'est la religion, et très spécifiquement la religion catholique, puisque évidemment à l'époque, il n'y a pas de religion musulmane en France, ou alors d'une façon totalement anecdotique, et on sent que toute la laïcité française se construit comme étant vraiment la nécessité de bannir le religieux, et surtout le religieux catholique, de l'espace public, mais de le bannir même très, très concrètement. On ferme les congrégations, on leur interdit de s'associer, on vole les biens de l'Église, enfin il y a une espèce de délire en fait contre la religion catholique qui est unique au monde.
Vous avez raison de dire.
Enfin, à part évidemment les communistes, oui. Pendant les glorieuses dictatures dans l'Union de la République socialiste soviétique.
D'ailleurs, on pourrait parler des liens, puisque c'est, une petite parenthèse, c'est un député communiste, Étienne Fajon, qui en 1946 a insisté pour inscrire la laïcité dans la Constitution. Donc, juste la parenthèse est intéressante parce qu'elle montre quand même que la laïcité est une idéologie mortifère. Et vous avez raison de dire qu'elle est particulièrement dirigée à l'endroit du catholicisme. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui est visé, c'est une conception philosophique qu'on a oubliée, c'est le concept d'indépendance absolue de la raison humaine qui vient directement heurter la conception du catholicisme qui est une conception de dogme. Le principe du catholicisme, c'est de croire en des vérités qu'on ne détermine pas soi-même. Et donc c'est pour ça que dans les pays protestants, vous n'avez pas eu ces mêmes conflits, vous en avez eu, hein, mais pas de la même intensité, dans la mesure où la doctrine dite du libre examen prônée dans les pays protestants, c'est plus acclimaté de cet esprit rationaliste qui voulait ne faire dépendre le débat public que de la seule raison, alors qu'il est entré en net conflit avec le catholicisme pour cette raison-là.
Non, mais cela dit, on voit un État comme Singapour, donc, qui est un État musulman, c'est quand même une démocratie. Un État comme l'Inde, qui est un État hindouiste, c'est quand même une démocratie. L'idée française d'expliquer que dès que c'est religieux, ce n'est pas compatible avec l'ordre public est quand même une idée exceptionnelle.
Alors, il n'y a pas besoin d'aller si loin, vous avez tout à fait raison, mais il suffit de traverser la Manche. Vous avez un État de l'autre côté de la Manche où le chef religieux est aussi le chef politique. Le roi d'Angleterre aujourd'hui est à la tête de l'Église anglicane. Alors certes, elle se porte
le
mal.
Le commandeur des croyants.
c'est pas tout à fait le titre, mais en tout cas, il est chef de l'Église d'Angleterre. Et effectivement, c'est quand même quelque chose, même si aujourd'hui c'est plutôt d'ordre protocolaire, c'est quelque chose qui, on le voit lors du sacre, ça a des conséquences très concrètes. C'est le roi qui lit un passage de l'Écriture. Donc, en fait, l'idée qui est derrière la laïcité française, de dire si vous voulez la liberté religieuse, si vous voulez la paix civile, alors mettez la religion à distance. Mais on voit que de l'autre côté de la Manche, il n'y a pas forcément ça se vérifie pas forcément. De l'autre côté du Rhin non plus. En Allemagne, c'est encore un autre système. C'est un système de déclaration. Vous savez, vous faites votre déclaration d'impôt, vous déclarez votre religion, vous cochez une petite case, et comme ça, votre impôt est fléché. Et du coup, juridiquement, vous êtes tenu de participer, de contribuer par l'impôt aux frais de votre religion, si bien que, par exemple, les catholiques ou les protestants qui sont mécontents de leur religion, ils demandent à se faire radier officiellement de l'alliance fiscale qui les concerne. Et en fait, ce système-là, il reconnaît, par exemple, en Allemagne, le rôle de service public joué par les religions protestantes comme catholiques dans certains secteurs, la scolaire, action sanitaire et sociale. Vous avez des églises qui gèrent des budgets assez importants dans le domaine caritatif. L'idée qui est derrière, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Principe de subsidiarité. Alors qu'en France, vous avez un État qui prétend tout faire, y compris dans ce domaine qui est le domaine d'excellence de l'Église. S'occuper des plus faibles, de l'éducation, des pauvres. Vous savez, à chaque fois que l'Église va quelque part, elle fonde une école, une église, un dispensaire. Bon, eh bien là, l'État veut être le seul pourvoyeur des bienfaits publics.
Et ça, c'est vraiment la Troisième République qui instaure ça. Et on voit aujourd'hui à quel point l'éducation nationale est efficace. On voit à quel point l'hôpital public est efficace. Donc, on voit à quel point l'État a été performant. Mais surtout, on sent que chez ceux qui défendent la laïcité à la française, de la façon la plus vigoureuse, il faut même que l'État, en fait, soit capable d'instituer une religion à la place de la religion catholique. Alors, c'est vous citer Vincent Peillon.
Oui.
Il faut inventer une religion républicaine. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation socialiste. Il faut inventer une religion républicaine. La laïcité serait plus forte aujourd'hui si on la concevait comme une véritable spiritualité. Donc là, il y a une espèce de rage anticléricale qui est tout à fait surprenante. Et en même temps, une espèce de reconnaissance implicite du fait que la religion, au contraire, est justement un fait social qu'on ne peut pas nier.
Oui, effectivement, c'est très... Alors, tous ne sont pas comme ça, mais il est très significatif d'une certaine laïcité dont le but est de créer une mystique alternative à la religion. Cette mystique, en fait, l'idée de Vincent Peillon, c'est de dire, on a fait la révolution, alors j'aime bien le « on » d'ailleurs, on a fait la révolution politique, on a fait la révolution sociale, mais on n'a pas fait la révolution religieuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé une religion de substitution qui puisse accompagner l'idéal révolutionnaire. On aurait voulu que ce soit le protestantisme, dit Vincent Peillon, mais nous, on est dans un pays de culture catholique, donc ce n'est pas possible avec le catholicisme, donc il faut créer notre propre spiritualité laïque, hein, sur le modèle de ce que voulait aussi Ferdinand Buisson, hein, qui est le maître à penser de Vincent Peillon sous la Troisième République.
Donc lui aussi ministre de l'Éducation nationale.
Et aussi, alors pas ministre, mais directeur de l'enseignement scolaire.
Pardon.
Il a accompagné toutes les grandes réformes de Jules Ferry sous la Troisième République. Et là, vous avez vraiment cette idée que la laïcité pourrait être ce substitut, cette forme de religion. Et en fait, on lui en demande beaucoup trop. C'est-à-dire que la laïcité, c'est un processus de soustraction. Vous enlevez le religieux d'un espace. Comment vous voulez que ce soit le ciment d'une nation alors que c'est un principe qui, par nature, crée du vide? Donc en fait, vous voulez créer une société cimenté sur du vide.
Mais en fait, et qui ampute l'homme d'une dimension spirituelle qui est la sienne, une fois plus, qui est reconnue sous toutes les latitudes depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a ce principe de soustraction qui est la laïcité à la française, alors qu'en fait c'est un principe de distinction. Et d'ailleurs, c'est l'Église elle-même qui invente la laïcité au Moyen-Âge.
Oui. Oui, exactement. Même on peut dire que les origines sont, dans les paroles du Christ, très mal comprises. Hein, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la laïcité par distinction. Alors, attention, le terme est beaucoup plus récent. Le terme est connoté idéologiquement parce que c'est en 1871, sous la Commune de Paris, qu'on parle pour la première fois de laïcité. Donc, on l'entend à la tradition, dans la grande tradition révolutionnaire et anticléricale. Mais le principe de distinction, vous avez tout à fait raison, il est aussi ancien que l'est le christianisme. Et en fait, c'est un principe qui est fondamentalement sain. Parce que l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas que ce soit la même personne ou la même institution qui assume le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel. Pourquoi ? Parce que ce sont deux pouvoirs radicalement différents dans leur finalité. Il y en a un qui vise le salut des âmes, l'autre le bien commun de la société. Et puis, deux pouvoirs qui ne procèdent pas de la même façon. C'est-à-dire que le pouvoir spirituel, il procède par attraction. Hein. Vous allez, et par persuasion, vous allez proposer à une personne la libre adhésion, parce que dans le christianisme, c'est libre, de la foi par l'intelligence et le cœur. Alors que la souveraineté d'ordre politique peut procéder par la contrainte des corps, c'est-à-dire qu'elle peut vous conduire en prison. Et donc, c'est deux buts différents et deux modalités d'action différentes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit mélangé. Et en fait, c'est le plus grand rempart au totalitarisme, l'idée de dire que désormais, le pouvoir spirituel émanera d'un autre principe que le pouvoir temporel. C'est ce qu'on appelle une société à deux têtes. Hein, et c'est ce qui faisait l'équilibre de la société au Moyen-Âge. Alors, c'est plus complexe, hein, une société à deux têtes, c'est-à-dire que quand on est citoyen, on doit se dire, alors là, est-ce que je dois obéir à l'Église? Est-ce que je dois obéir à l'État? Vous êtes le joug, entre guillemets, de deux souverainetés qui vont jusque dans votre âme, quoi. Et donc, il y a un équilibre qui est jamais atteint. C'est pour ça qu'il y a toujours le conflit entre le pape et l'empereur, le pape et le roi de France. Mais, en fait, c'est sain et ça empêche cette tendance naturelle d'une société à être moniste, c'est-à-dire régie par un seul principe. Et c'est la source de tous les totalitarismes quand une seule personne, un seul principe, prétendent avoir un pouvoir total sur la société.
Alors, on va pas revenir sur l'histoire du catholicisme qui a mis longtemps à se débarrasser, à se purger lui-même de cette tentation temporelle. On voit aujourd'hui que les pays ouvertement musulmans, eux, assument parfaitement le fait que cette religion est aussi de l'ordre de la contrainte par corps, et avec une réglementation de la société qui est décidée par le religieux. Et on en arrive à la société française qui vit un moment, évidemment, qu'elle n'avait pas anticipé, et que tous ceux qui continue à faire ses lois où il parle de la religion sans distinguer en fait entre des religions où justement il n'y a pas de contraintes et des religions qui sont contraignantes, en arrive à imaginer une laïcité à la française qui en fait est en train de prendre en pleine face le phénomène musulman et donc le phénomène d'une société où le religieux et le temporel sont totalement confondus.
Oui, exactement. Et la laïcité n'est pas le bon outil pour lutter contre cela. Tout simplement parce que, en fait, la laïcité a été conçue pour éradiquer le christianisme de l'espace public, et en singulièrement le catholicisme. Et face à l'islam, elle est démunie, parce que l'islam, c'est pas simplement une religion, c'est aussi une civilisation. Et puis surtout, il y a énormément de mécanismes de contournement. C'est-à-dire que la laïcité ne veut pas, article 2 de la loi de 1905, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En pratique, c'est très facile de financer une mosquée. Bah, vous créez une association dite cultuelle pour la mosquée. À côté, vous créez une salle de sport ou une association dite culturelle. Vous allez voir le maire, vous allez quémander des subventions pour la partie culturelle. Il y a une comptabilité qui est un peu opaque entre les deux. Et puis derrière la salle de sport, il y a la mosquée. Donc en fait, on trouve toujours des mécanismes de contournement. Si bien que, en fait, aujourd'hui, non seulement la laïcité ne permet pas, contrairement à ce qu'on croit, de lutter contre l'essor de l'islam, mais en plus, elle favorise un vide culturel qui fait le lit à la fois des idéologies, mais aussi de l'islamisme le plus radical. Je prends un exemple tout simple. Depuis l'arrivée des écologistes à la mairie de Lyon, la fameuse procession des échevins qui avait lieu le 8 septembre de chaque année pour rendre hommage à la protection de la Vierge sur la ville de Lyon contre la peste, eh bien cette procession, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'était un moment traditionnel où tout le monde, y compris les plus grands francs-macs, se retrouvaient à Notre-Dame-de-Fourvière, eh bien, les écologistes ont estimé que c'était contraire à la laïcité. Donc, en fait, on fait tomber des choses qui sont de l'ordre des traditions. On retire de l'espace public des statues de la Vierge et on les déplace de quelques mètres parce que, ouf, heureusement, elles sont dans une emprise privée et donc elles ne portent pas atteinte à nos convictions. Vous voyez, c'est du grotesque. On a l'impression de revivre Don Camillo et Pépone. Alors que dans le même temps, en fait, on ne fait rien pour lutter contre l'essor de la civilisation islamique et la laïcité.
Non, on ne fait rien et même au contraire, il y a des édiles complices et qui, justement, étant parfaitement au courant de ce que vous disiez, c'est-à-dire d'une fausse distinction entre le cultuel et le culturel, décident de subventionner à mort le culturel tout en sachant bien que le cultuel est dans les fontes du culturel.
Il y a même un ministre de l'Intérieur qui a avoué récemment, alors j'ai vu qu'il s'était excusé au Sénat de ses propos maladroits, qu'il avait, dit-il, lui et le président de la République, donc il prend aussi à partie le président de la République, tout fait pour encourager et favoriser le développement de l'islam.
Parle de Laurent Nunez. Hein,
Comme si le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'était de favoriser le développement de l'islam. Donc là, pour le coup, on est complètement même... on pourrait nous draper dans les habits d'une saine laïcité et de dire, mais t'es pas dans ton rôle, quoi.
Alors, c'est vrai qu'en France, le ministre de l'Intérieur est le ministre des cultes parce que la France a une tradition catholique où il y a une église constituée avec laquelle les pouvoirs publics discutent. Alors, ils les discutent en leur coupant la tête, ils discutent en leur volant les biens à deux reprises, ils discutent avec des lois iniques. Voilà, bon, c'est une discussion républicaine, comme diraient ces gens-là. Mais néanmoins, il y a un pouvoir constitué. Avec l'islam, il se retrouve en face d'un pouvoir qui n'est pas constitué. Et donc, la laïcité à la française consiste à essayer de faire rentrer l'islam dans le moule du catholicisme. Bizarrement, ça ne marche pas. Le conseil français du culte musulman, évidemment, les musulmans y adhèrent ou pas. Autrement dit, ils sont perdus. Alors que, vous le soulignez, il y a ce creux, il y a cette soustraction, la laïcité, c'est on bannit la religion. Tous les jeunes musulmans, au contraire, adhèrent à cette religion, y participent, et toutes les enquêtes qui sortent prouvent que plus on est jeune et plus on se reconnaît de confession musulmane, moins l'adhésion à la laïcité française est forte, et au contraire, plus l'adhésion à la loi musulmane et non pas à la loi républicaine est privilégiée.
Ah oui, alors vous avez tout à fait raison. On a voulu calquer le système qu'on avait trouvé, l'espèce de modus vivendi avec le catholicisme. On a voulu le calquer sur l'islam. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hiérarchie reconnue. Le CFCM, le fameux CFCM qu'avait voulu Nicolas Sarkozy, ben en fait, c'est l'État qui le portait à bout de bras, puis il n'était plus représentatif. Puis, les musulmans ne se reconnaissent pas là-dedans. Et j'irai même plus loin. C'est-à-dire que si vous voulez... si vous voulez que les musulmans honnêtes, de bonne foi, se reconnaissent dans la République française, mais en les prenant avec la laïcité, mais c'est, vous allez les faire fuir. Donc, en fait, c'est pas du tout le bon moyen de les intégrer. Il faudrait plutôt prôner l'assimilation traditionnelle à la culture française, et de leur dire, la France n'est pas une page blanche, hein, ou une carte blanche, comme disait Edmund Burke. La France est un pays de tradition chrétienne, de marque chrétienne, comme disait Pierre Manon, et vous y êtes les bienvenus si vous adhérez à cette culture, à cette manière de vivre, quel que soit votre religion par ailleurs, ou votre absence de religion, là, ça serait beaucoup plus efficace. Mais avoir cette laïcité qu'ils méprisent, qu'ils ne peuvent même pas comprendre parce que, en fait, elle n'est pas dans leur logiciel mental, en fait, on les renforce dans leur communautarisme.
Alors, je rappelle, justement, vous avez essayé de penser cette laïcité pour demain. C'est d'abord un livre qui raconte l'histoire de ce concept de laïcité. Mais aujourd'hui, donc, comment faire pour que la laïcité soit un bon outil?
Ah, alors, très bonne question. Déjà, c'est un outil qu'il faut remettre à sa juste place. C'est-à-dire que sa juste place, c'est à la fois une saine distinction et pas de mélange des genres. Saine distinction, ça veut dire que chacun doit être à sa place. Moi, ça me choque, par exemple, quand vous avez Trump qui, alors même qu'il est en train de déclencher la guerre en Iran, est assis dans son bureau de la Maison Blanche, et derrière lui, vous avez des pasteurs qui mettent la main sur son épaule et qui prient. Là, c'est un mélange des genres. Et ça peut justement conduire à une instrumentalisation du christianisme. Pareil que lorsque George Bush avait parlé de croisade contre l'Irak dans les années 2000. Donc là, je crois qu'il y a une saine distinction à avoir. Et pas de mélange de genre, c'est-à-dire qu'il y a un espace autonome pour la raison. Cet espace, c'est l'espace de la rationalité, et il y a des choses qui se justifient par la raison. Vous n'avez pas besoin, par exemple, pour dire « je suis contre l'euthanasie », vous n'avez pas besoin de dire « ah ben c'est au nom de ma foi ». Vous confessionnalisez le débat, alors qu'en raison, vous pouvez très bien dire « ben non, la vie humaine, elle a sa justification par elle-même ». Voilà, donc c'est déjà une saine distinction. Et ensuite, après, j'allais dire, il faut dans ce domaine-là, il ne faut pas se tromper d'adversaire. La laïcité, c'est quelque chose qui peut, c'est une espèce de zone tampon qui peut servir à faire en sorte que tout le monde se reconnaisse dans la communauté politique. Je prends un exemple tout simple. Demain, on vous dit le policier qui vous verbalise, bah, c'est un policier musulman, c'est un policier juif, ou alors que vous allez vous faire juger par un juge qui dira « moi, je suis un juge chrétien bah, ». Vous direz « j'ai plus confiance dans les institutions, notamment les institutions régaliennes ». Donc, c'est normal que dans un pays qui est divisé sur le plan confessionnel et idéologique, eh bien, bien qu'il y ait quelques fonctions de souveraineté dont les représentants soient en uniforme. L'uniforme, ça banalise justement les convictions politiques et religieuses. Donc ça, c'est sain. Moi, j'ai pas envie, si j'étais militaire, je voudrais pas servir sous les ordres d'un officier qui me dit, moi, je suis un officier de telle ou telle religion. Bon. Donc ça, c'est sain. C'est ça, la bonne laïcité. C'est juste se dire que certaines fonctions de souveraineté sont neutralisées parce qu'on est là pour servir la France dans telle ou telle mission. Mais c'est tout. Ça va pas plus loin.
À votre avis, les tenants d'une laïcité féroce sont surtout acharnés en fait contre leur vieil ennemi et ne réussissent pas à faire contrepoids à la pénétration de l'islam, et il nous reste juste 40 secondes. Et peut-on imaginer qu'on en arrive à une redéfinition de la laïcité qui ne soit pas à ce point-là idéologique, mais qui soit pragmatique?
Alors, c'est une tentation, effectivement. Vous avez un espèce de retournement où à droite, on voudrait utiliser la laïcité pour lutter contre l'islam. Et puis à gauche, on devient de plus en plus libéral au nom du droit à la différence. Mais je crois que malheureusement, il y a les textes et que la laïcité, on le voit avec la France insoumise, ça restera s'attaquer au caractère propre des établissements catholiques, s'attaquer à telle ou telle subvention ou tel statut de la Vierge et dans l'espace public. Et donc, en fait, malheureusement, l'édifice juridique est ainsi fait. Fait que la laïcité reste construite contre le catholicisme et ne peut pas être transposée comme cela à l'islam.
Et bien voilà, les gens pourront s'en rendre compte en lisant « Quelle laïcité pour demain ?» aux éditions Bollène. Merci beaucoup Benoît Dumoulin
Merci
de cet éclairage tout à fait passionnant.